Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la bosse, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Mélodie Madard et j'ai la chance de recevoir des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent me raconter leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soit à la tête de leur propre entreprise ou soient reconnues pour leur talent aiguisé, elles ont réussi grâce à leur conviction, leur ambition, leur force et audace à aller au bout de leurs rêves et nous livrent aujourd'hui leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous et ça commence maintenant. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Nina Ramen, ou plutôt la véritable queen du copywriting. Mais qu'est-ce que le copywriting ? C'est tout simplement l'art d'écrire de manière persuasive pour pousser le lecteur à effectuer une action, comme acheter un produit ou un service, donner son email, prendre rendez-vous. Issue d'une formation d'ingénieur chimiste et ancienne dyslexique, rien ne la prédestinait alors au copywriting. Elle commence en étant chasseuse de tête et c'est en contactant des profils qu'elle s'est rendue compte du pouvoir des mots. C'est là que sa carrière de copywriter commence, une plume qu'elle met au service des entreprises pour convertir. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, avec des centaines de milliers de chiffres d'affaires avec ses formations et plus de 85 000 abonnés au compteur sur LinkedIn, elle partage quotidiennement ses conseils pour créer du contenu. Je vous invite vraiment alors à la suivre pour que vous aussi vous osiez prendre la parole. Parce que oui, selon Nina, l'environnement dans lequel nous évoluons ne laisse pas assez la parole aux femmes. C'est pour cela qu'elle a créé Ramène ta fraise, une communauté pour entrepreneuses et femmes qui veulent prendre la parole sur LinkedIn. Le but, créer un espace suffisamment safe pour que chacune puisse partager ses problèmes rencontrés sans avoir peur du jugement. Alors pourquoi prendre la parole? Que raconter dans son contenu? Comment construire le bon message? Comment se démarquer sur les réseaux sociaux? Comment transformer ses clics en vente? Dans cet épisode du podcast, Nina nous livre tous ses meilleurs conseils pour devenir une boss du copywriting. Des conseils que vous pouvez aussi retrouver dans son livre qui vient de sortir, Copywriting pour entrepreneurs et indépendants aux éditions Erol. Et je suis actuellement en train de le lire et je peux vous le dire, c'est une vraie merveille. Belle écoute à vous.
Hello Nina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Salut Mélodie, un énorme merci de me recevoir, je suis très contente d'être là.
Alors vraiment je suis ravie moi de te recevoir sur ce podcast parce que ça fait à peu près des mois que je te vois partout sur LinkedIn et puis on a eu la chance aussi de te recevoir sur notre festival C'est qui la bosse et t'as fait une impression assez incroyable, aussi bien dans les coulisses que sur scène d'ailleurs. Mais finalement je connais très peu ton histoire, ton parcours et ton métier parce qu'on va quand même parler d'un métier qui fait beaucoup parler en ce moment sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et qui est en plein essor et c'est le copywriting.
Exactement, le copywriting avec un W, l'art de vendre avec les mots.
Eh ben nickel, comme ça au moins on rentre direct dans le vif du sujet. Et avant de parler de tout ton parcours, je commence toujours le podcast par la même question. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune si aujourd'hui tu devais parler à Nina de 15 ans avec le recul, avec tout ce que tu as vu et vécu et tout ce que tu as appris, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais d'arrêter d'attendre la permission. En réalité, je pense que quand j'étais petite, je pensais que pour écrire, il fallait absolument être bonne en dictée, par exemple. Alors moi, ce n'était pas du tout mon cas. J'avais des notes négatives en dictée.
Donc, matière où tu peux en avoir, d'ailleurs.
Oui, c'est clair. Seule matière où tu peux avoir des notes négatives. Mais tu vois, je dirais, arrête d'attendre la permission. Tu n'as pas besoin d'un diplôme de journalisme pour écrire des articles. Ben, je parle d'écriture parce que c'est mon métier aujourd'hui. Moi, j'ai des études scientifiques, tu vois, donc... Je pense que j'ai longtemps attendu la permission, je suis allée au bout, j'ai fait la bonne élève en allant au bout des études scientifiques, en me disant bon allez, comme ça je ferai ça jusqu'au bout. Et au final, le métier que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec mes études et il a fallu vraiment que je comprenne que personne ne va me donner la permission, personne ne va me dire ok tu es adoubé. Aujourd'hui il n'y a pas d'école de copywriting, il n'y a pas de diplôme de copywriting, donc personne ne va te dire ok c'est bon tu es compétente. La seule chose que tu peux faire c'est faire des choses, devenir excellente et être reconnue soit par tes pairs, soit par tes clients, soit par ton entourage, mais la seule chose que tu peux faire pour gagner confiance en toi, c'est finalement d'agir et de passer à l'action. Donc j'irai arrête d'attendre la permission, fais des choses et c'est comme ça que tu prendras confiance en toi et c'est comme ça que tu arriveras en fait à te sentir ok et légitime finalement.
Et ben justement c'est une question que j'avais, comment tu as fait pour prendre confiance en toi vu que tu venais pas du tout du milieu du copywriting? Toi tu penses que la vraie clé c'est de tester, d'être dans l'action et c'est un conseil que tu recommandes d'ailleurs d'aller tester des choses, même des choses qui sont éloignées de ce qu'on a l'habitude de faire ou de ce qu'on aime d'ailleurs, et c'est un peu par la pratique qu'on s'aperçoit qu'on a un du talent et deux qu'on découvre ce qu'on aime.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la première, c'est connaître un peu la théorie, parce que c'est important de ne pas partir de zéro. C'est quand même cool, il y a des gens qui ont découvert des choses sympas en copywriting, mais dans toutes les autres matières. D'ailleurs, quand on fait des recherches scientifiques, on fait une partie bibliographie. C'est une partie où on essaie d'aller creuser ce qui a été fait pour ne pas repartir de zéro. Donc ça permet vraiment d'avoir une base sur les fondamentaux. La deuxième chose, c'est effectivement de passer à l'action. Et notamment pour l'écriture, pour la vente, pour le marketing, toi, tu t'imagines des choses dans ta tête, mais la réalité, c'est qu'il n'y a que le marché qui va te dire si c'est une bonne idée ou pas. Et là, je vais prendre l'exemple d'un post LinkedIn. Toi, dans ta tête, ton post, il est génial, ton écriture, elle est top. Mais au moment où tu vas le poster, peut-être que tu vois, tu n'auras pas de réaction. Et à l'inverse, tu te dis, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était éclaté, mais bon, il fallait que je poste, donc j'ai posté. Et là, tu vas voir un de tes meilleurs posts qui va tout péter, quoi. Donc, tu ne peux pas présumer de ce que les autres vont penser. Et d'ailleurs, toi, tu es la pire personne pour te juger. C'est-à-dire que la majorité du temps, tu vas te juger durement, tu vas projeter tes peurs, alors qu'en réalité, les gens autour de toi, ils ne voient pas ton intérieur, ils ne voient pas tes doutes, ils ne voient pas ce qui se passe. Et donc, ils te jugent de la même manière que toi, tu jugerais une amie. Quand tu as une amie qui fait des choses, tu vas être sa cheerleader, tu vas l'encourager, tu vas dire, là, tu pourrais t'améliorer, mais c'est OK. Et il y a cette idée aussi que quand il y a quelqu'un qui est extérieur à toi, tu vas être beaucoup plus sympa qu'avec toi-même.
Exactement.
Donc, passer à l'action, c'est la meilleure manière d'arrêter de se faire des films dans sa tête, se dire, mais c'est horrible ou c'est génial ce que j'ai écrit, et vraiment confronter ton idée et ton écriture au marché. Et pour ça, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux et c'est génial parce que le temps pour arriver jusqu'à ton audience et jusqu'à ton marché, il est très faible. Mmh. Avant, pour écrire, il fallait être journaliste, il fallait avoir sa carte de presse, il fallait avoir ses entrées. Aujourd'hui, il y a une espèce de démocratisation des médias qui fait que tu peux être n'importe qui, poster et faire le buzz. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que le troisième post LinkedIn que j'ai fait, c'est un post qui a fait des centaines de milliers de vues. Et aujourd'hui, je fais 1 million de vues sur LinkedIn par mois. Et comme je disais, j'étais dyslexique quand j'étais petite, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc-là de se dire... Moi, je n'avais pas confiance en moi. Moi, je me disais que je n'y arriverais pas, mais le marché m'a prouvé autre chose. Et donc ça, finalement, c'est ça qui te permet de dire, j'ai certains milestones. Et le jour où j'ai été contactée pour écrire un livre par Erol, je me suis dit, là, c'est une preuve objective. Et tu arrêtes de dire « je suis nulle » et tu te dis, OK, il y a visiblement des gens qui trouvent que je ne suis pas si nulle que ça. Viens, on les écoute. Et c'est ça qui t'aide à prendre confiance en toi. C'est tes petites réussites au quotidien.
Magnifique. Et justement, rentrons peut-être dans le vif du sujet, un peu ton parcours, parce que je trouve que c'est aussi assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Donc finalement, tu fais des études de chimie. Qu'est-ce que tu fais après tes études et comment tu atterris dans l'univers du copywriting finalement, alors que tu n'étais pas du tout prédestinée à ça?
Ouais, sacrée histoire. Je fais des études scientifiques et je vais tellement au bout que je fais un stage de fin d'études chez L'Oréal.
Ok.
Et là...
Pas facile d'y rentrer quand même, donc t'es pas mal douée.
Oui, c'était hyper sélectif. Et ce qui était intéressant, c'est que L'Oréal était venu dans mon école de chimie et ils avaient fait passer des entretiens. Et la dernière, c'était des épreuves. Donc il y avait plusieurs épreuves. Et la dernière épreuve, c'était intéressant parce qu'il fallait pitcher son innovation. Donc il fallait imaginer une innovation scientifique et la pitcher devant le jury pendant 3 minutes.
Très sympa.
Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que cette épreuve, en fait, elle est révélatrice d'à quel point tu sais présenter, ça révèle tes compétences marketing et vente, mais pas du tout tes compétences scientifiques. Enfin, il y avait effectivement l'idée de l'innovation que tu aurais dû savoir, mais tu vois, c'est marrant à quel point dans le recrutement, tu vois, ils ont valorisé le market et la vente, et j'imagine que c'est pour ça que j'ai été prise, parce que de base, je pense que j'étais un peu meilleure que les autres pour vendre, faire savoir, plus que savoir-faire. Surtout en chimie. Et à la sortie de mes études, donc je me retrouve un peu comme ça, à chercher du job, quoi. Et il y a un recruteur qui m'appelle et qui me dit « Hey, tu veux recruter des profils scientifiques ?» Je dis « Mais t'es sûr que t'as lu mon CV ?» Parce que scientifique, oui, mais un recrutement, pas du tout. Il m'a dit « Non, mais t'inquiète pas, tu nous rejoins. Et la boîte va t'apprendre le recrutement. Donc, comme t'es scientifique, toi, tu vas savoir parler à d'autres scientifiques. Donc, t'as la compétence métier. Et on va t'apprendre la compétence recrutement. » Et donc là, tu vas très bien et très vite voir le lien avec LinkedIn. Je suis devenue recruteuse, chasseuse de tête. Dans l'univers cosmétique, agro et pharma. Et je recrutais des profils responsables laboratoire jusqu'au technicien. Et ce qui était intéressant, c'est que là, il fallait que je fasse du sourcing, c'est-à-dire trouver des candidats. Et je le faisais majoritairement sur LinkedIn. Et donc, il y a deux manières de le faire. Soit tu postes une annonce, mais tu n'es pas sûr que tu auras les personnes que tu veux. Soit c'est enfin, tu jettes un filet, soit tu fais de la chasse. Et donc là, j'identifiais les profils qui m'intéressaient le plus et j'allais leur envoyer des messages. Et je me rendais compte qu'en fonction du message que j'envoyais, bah, j'avais plus ou moins de taux de réponse. Je disais, mais il y a un truc là avec l'écriture. C'est-à-dire qu'en fonction du message, soit j'ai 90% de réussite, soit j'ai 10%. Mmh. Et donc là, j'ai découvert ben, la discipline qui s'appelle l'écriture de vente, l'art de convaincre avec les mots, l'art de convaincre à distance. Et je me suis dit, mais c'est super puissant. Et cette discipline, je m'en servais pas seulement pour les candidats, mais aussi pour les clients. Parce que j'avais vraiment une partie prospection pour trouver des clients. Et donc, de la même manière que j'approchais un candidat et que je devais trouver des arguments pour le voir en entretien, bah, je devais approcher des clients pour bah, décrocher des mandats avec eux. Et je me suis rendu compte que cette discipline a été hyper utile, mais dans les deux. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'approche directe, à développer mon commercial. Donc ça a été deux volets. Et troisième volet, c'est quand j'ai commencé à rédiger ben, des posts. À l'époque, LinkedIn, c'était le no man's land.
Complètement.
C'était genre une CV tech à ciel ouvert. J'avais Viadeo, tu vois, feu Viadeo à l'époque. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire des posts. J'en ai écrit un, ça n'a pas trop marché. J'en ai écrit un deuxième, ça a moyennement marché. J'en ai écrit un troisième. Et là, ça a fait plus de 100 000 impressions. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un truc à faire. Et donc, c'est là où bah, j'ai commencé à développer cette compétence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ce média qui n'était encore pas très exploité, tu pouvais avoir une si grosse portée sur un domaine qui était très qualifié. Parce que tout le monde n'est pas sur LinkedIn, même encore aujourd'hui. C'est quand même très précis. Ce qui est cool, c'est que ça te donne une granularité de connaissances de personnes qui est énorme. Tu as accès au poste de la personne, tu sais ce qu'elle fait. Et donc j'ai investi cette plateforme.
C'est fou parce que j'ai reçu, pas sur le podcast, mais en vidéo, Clémentine Gallet aussi, qui est la fondatrice du podcast Bliss sur la maternité. Et quand elle s'est lancée en fait, dans le podcast, elle avait besoin aussi d'avoir des personnalités qui venaient raconter leur accouchement bah, pour avoir de la visibilité dans son podcast. Et elle me disait qu'elle a passé peut-être 1h30 ou 2h, voire 3h à écrire le bon mail bah, pour les convaincre. Et en fait, elle m'a dit, mais si vous voulez vraiment convaincre des gens, il faut passer peut-être 3 heures sur le bon message, parce que vous allez penser que vous allez perdre du temps, vous avez envie de faire un message un peu bateau qui va à tout le monde, mais c'est là où vous allez avoir zéro réponse, alors que si vous soignez vraiment la pertinence de votre message, forcément la personne va être touchée et va vous répondre.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est un peu comme quand tu reçois un message automatisé, bah, tu ne te sens pas considéré. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre la personnalisation qui te demande un travail, comme tu l'as dit, parfois de 3 heures, et l'email de masse. Où là, bah, oui, ça va être un email que tu vas prendre très peu de temps à rédiger, mais qui va parler à personne. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre super personnalisme, et du coup, j'y passe beaucoup de temps, et j'envoie un message super bateau à tout le monde.
Et le mieux, c'est quoi? C'est d'avoir une espèce de structure qui est commune à tous les mails et de se garder 4-5 lignes pour de la personnalisation.
Ouais, ça marche super bien, ça dépend de ton volume. Alors, je vais donner une petite astuce, c'est la structure AIDA, A-I-D-A. C'est une structure de copywriting, c'est probablement la plus connue. Le premier A, c'est attention. Donc l'objectif, c'est d'abord d'attirer l'attention. Et là, il faut faire très attention, notamment à son objet d'email. C'est la première chose que les personnes vont voir. C'est ce qui va donner envie de cliquer.
Complètement.
Ou pas. Si je te dis résultat Q4 2022, bon, ça ne te donne pas trop envie d'ouvrir. Par contre, si je te dis les 3 raisons qui ont fait qu'on a explosé les résultats cette année, ou pourquoi on n'arrivera pas à faire nos résultats cette année, bah, tu as beaucoup plus envie de l'ouvrir. Donc déjà, si tu soignes ton objet d'email, tu as déjà beaucoup de chance pour que la personne le dise. Parce que pour avoir un bon email, il faut d'abord que la personne, enfin, qu'il soit lu.
Complètement. Bah, nous, moi qui suis dans les médias, je reçois des communiqués de presse, peut-être 300 mails par jour. Sur les 300 mails, j'en ouvre quasiment pas, quoi.
Ah, c'est intéressant.
Ouais.
Et tu saurais dire quels sont les...
Après, c'est parce que ça m'est pas vraiment adressé, parce qu'aujourd'hui, j'ai une rédaction, donc évidemment, je laisse la rédac ouvrir les communiqués de presse. Mais c'est sûr que, évidemment, quand ça m'est adressé ou quand je vois à l'attention de Mélodie Madard ou invitation, déjà, en fait, là, tu sais que tu vas être invité quelque part, donc tu sais qu'on attend une réponse aussi de ta part. Mmh. Voilà, c'est des petites choses qui me font que je sais que je vais ouvrir ce mail ou pas.
Ok, intéressant. Donc, attention. Ensuite, intérêt. Intérêt, comme tu l'as dit, c'est pourquoi je devrais arrêter de faire tout ce que je fais dans ma vie pour te lire. Donc, j'ai clairement plein d'autres choses à faire que lire ton email. Exemple, lire l'email d'après, aller scroller sur LinkedIn ou sur Instagram, aller répondre à mon coup de fil, aller déjeuner, bref. Donc, il faut que tu arrives à dire à la personne quel est son intérêt à te lire. Ensuite, donc ça c'est le I, le donc AI, D, le désir. Qu'est-ce qu'elle va obtenir? Exemple, invitation, tu vois, dans le cadre d'une invitation, ça pourrait être, tu vas rencontrer d'autres personnes de ton écosystème, des personnes qui ont revendu leur boîte, qui sont en train de préparer l'après, et tu vas dire, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que ça me correspond à moi, etc. Et ensuite, action, appel à l'action, parce que souvent, on oublie de dire aux gens quoi faire, donc on envoie un super email, et puis en fait, ciao après.
Complètement. Non. Tu les as contactés pour quelque chose.
Quoi. C'est ça. Je t'invite à me répondre directement à cet email pour que je puisse bloquer ta place dès maintenant. Donc là, tu vois, tu as une structure qui est facile à retenir. AIDA, attention, intérêt, désir, action, qui te permet tout de suite d'avoir un email qui va être bien écrit. Autre chose aussi, ça va être, tu peux aussi segmenter. Quand tu ne veux pas faire de l'hyper-personnalisation, tu peux aussi segmenter. Tu sais que tu vas avoir un segment de personnes qui va avoir les mêmes problématiques. Les gens qui se ressemblent ont les mêmes problèmes. Exemple, une femme qui est entrepreneuse, qui est maman, qui probablement a peut-être 2-3 salariés. Son enjeu, ça va être comment je gère mon temps. Donc là, tu sais que tu vas pouvoir axer sur cette problématique-là. Tu vises un mec de 25 ans, il n'a pas du tout le même problème. Donc là, tu vois, tu peux aussi segmenter ton audience par typologie de problématique, ce qui te permet d'avoir un message qui soit à la fois personnalisé parce que tu reprends les points de douleur et les intérêts de la personne, et en même temps, c'est pas quelque chose où tu vas devoir aller à la mano à chaque fois, repersonnaliser, parce qu'on sait que parfois, tu as quand même cet enjeu de devoir multiplier les points de contact pour pouvoir obtenir un certain nombre de réponses.
C'est magnifique, c'est une super technique. J'adore. Si. En plus, tu retiens vraiment mes mots techniques hyper faciles qu'on va tester. Et justement, en fait, tu as atterri un peu dans ce milieu-là par hasard. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être copywriter ou writeuse?
Excellente question. Je pense que tout le monde peut l'être, dans le sens où ne demande pas la permission. Si tu as envie de le faire, fais-le. Après, je pense que tout le monde l'est un peu. À partir du moment où tu entreprends, il y a forcément une dimension dans ta boîte où tu dois vendre. Et le copywriting, ce n'est jamais que l'écriture de vente. Donc, c'est un commercial derrière un ordinateur. Donc, peu importe la boîte que tu as aujourd'hui, il y a forcément un moment ou un autre où tu es amené à vendre au sens large, à convaincre quelqu'un de venir à ton podcast, à convaincre un investisseur de te rencontrer, à convaincre un client. Donc, tu es déjà copywriter, en fait. C'est juste que tu ne le sais pas. Et donc, l'intérêt, c'est plutôt d'aller creuser cette discipline pour la conscientiser davantage, comme moi, je le faisais quand j'approchais des candidats ou des clients. Je le faisais déjà, mais je n'avais pas conscientisé les techniques. Et donc, finalement, je n'étais pas bonne dans ce que je faisais ou pas... je pouvais être meilleure, mais simplement, je n'avais pas... Je ne connaissais pas la technique, je ne connaissais pas la discipline, et donc je ne creusais pas dans ce sens-là. Donc je pense que tout le monde, en tout cas toutes les entrepreneuses, sont déjà des copywriters. Et même au sens un peu plus large du terme, quand tu es salarié, tu dois toujours convaincre un tel d'aller lire ton email. Merci. Si ton email il est bien écrit, qu'il est impactant, t'inquiète que la personne en fait, elle va te répondre beaucoup plus facilement que s'il y a des tartines et qu'elle ne comprend pas où est-ce qu'elle doit cliquer et ce qu'elle doit faire après. Donc même si tu n'es pas entrepreneuse, de toute façon, tu es amenée à écrire.
Et qu'est-ce qui fait que tu deviens bon ou bonne copywriter?
Tester. Notamment, tu vois, j'ai un produit dans lequel je prends des promos de 20 femmes que j'aide à prendre la parole. Okay. Et notamment sur LinkedIn, donc 20 entrepreneuses. Et dans cette promo, donc ça dure 8 semaines. Les 4 premières semaines, elles préparent et 4 autres semaines, elles prennent la parole. Et donc, c'est un challenge 30 jours. Donc, elles font un post par jour pendant 30 jours. Et je peux te dire qu'il y a des moments où c'est vraiment dur. À la fin, elles sont super contentes pour plusieurs raisons. La première, c'est que plus tu fais et plus tu vas insensibiliser ton cerveau, il y a beaucoup de gens qui ont de l'appréhension à l'écriture. Parce que quand t'es petite, faute d'orthographe, etc.
Complètement.
Tu vois, t'as cette angoisse d'écriture. Angoisse de la page blanche, angoisse de machin. Bon bref, il y a plein d'angoisses.
Syndrome de l'imposteur, ou de se dire que j'ai rien à raconter.
Exactement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Page blanche, j'ai pas le temps. Et ce que j'ai à dire n'est pas intéressant. Donc ça, c'est les principales objections qu'on traite. Et en fait, le fait de le faire tous les jours, ça insensibilise son cerveau. À la fin, poster sur LinkedIn, pour elle, ça devient comme se brosser les dents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le fait de poster régulièrement, tu vas toi-même comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, tu vas comprendre ton marché. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. On peut te donner des grandes règles, on peut te dire, bah voilà comment ça fonctionne. Mais si toi, tu testes pas ton marché, ta cible sur ta proposition de valeur, bah c'est compliqué parce que tu n'auras jamais la réponse. Donc, c'est à toi de le faire et de le tester. Et tu vas apprendre aussi à te ramasser. Et tu vas te dire, bah finalement, c'est pas si grave que ça. Donc, vraiment, il y a ces... Et dernière chose aussi, la créativité vient en créant. La plupart des femmes me disent, ben, j'ai pas d'idée. Alors qu'en réalité, plus tu écris, plus t'as d'idées. C'est contre-intuitif, mais plus tu écris, plus t'as d'idées. Donc, le fait d'écrire tous les jours et de publier tous les jours, ben, déjà, ça alimente ta créativité, ça te confronte au marché et ça permet à ton cerveau ben, d'ancrer cette habitude. Et le résultat, in fine, sur toi, entrepreneuse, ben, ça te fait connaître. Les filles, quand elles démarrent, elles font, dans le bootcamp, allez, elles font entre 50 et 100 000 vues, tu vois, sur le mois, ce qui est rare, en fait, d'avoir autant d'impressions. Si vous voulez avoir 100 000 personnes qui passent devant, je sais pas combien ça coûte, un panneau d'affichage dans le métro.
Cher.
Mais tu vois, je me dis, mais en fait, ça représente combien de jours d'affichage dans le métro? Tu vois, 100 000, moi, je suis 1 million par mois. Tu vois, tu te dis, en termes de d'exposition des gens à ton message, c'est génial, peu importe. Et dernière chose, c'est que LinkedIn, aujourd'hui, bah, c'est pas seulement du B2B, c'est aussi du B2C. Il y a Justine Hutto qui fait des déodorants Respire. Mais en fait, elle est hyper connue sur LinkedIn. Et pourtant, elle vend des déodorants, c'est du B2C. Voilà, en gros, ce que moi, je préconise sur le fait de lever ces barrières, en fait, finalement, par rapport à l'écriture.
Et pourquoi tu as voulu créer ce bootcamp spécialement pour les femmes et spécialement pour les entrepreneuses? Est-ce que c'est parce que tu penses qu'elles n'ont pas assez la parole ou qu'elles n'osent pas assez prendre la parole aussi?
Ouais. Plusieurs choses. Je pense que déjà, l'environnement dans lequel on vit, il ne favorise pas le fait que les femmes prennent la parole. Donc, on peut te dire, si déjà, on ne te met pas le bon écosystème, ça ne t'aide pas. Premièrement, les femmes, elles se font couper la parole deux fois plus souvent que les hommes. Donc déjà, si quand tu parles, on te coupe, bon...
Ça ne donne pas très envie de continuer à l'apprendre.
Ça ne donne pas très envie. Donc je pense que déjà, le monde dans lequel on vit n'aide pas. Aussi, quand on parle d'expertise, quand on parle de business, parce que là, c'est de ça dont il s'agit, on imagine plutôt un mec... avec une chemise grisonnant plutôt qu'une nana jeune, tu vois, qui ne l'est pas du tout. Donc il y a cette idée de rôle modèle. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui voient d'autres femmes le faire et donc du coup qui se projettent dans le fait de le faire. Et je vais donner un exemple. Dans le top 10 LinkedIn, dans un des top 10 dans lequel j'ai été, donc en 2022, sur 10 personnes, il n'y avait que 2 femmes. Dans le top 10, sur 10 personnes, il n'y avait que 2 femmes. Donc, ça fait 20%. Donc, c'est très peu. Et je pense, moi, l'interprétation que j'en fais, donc déjà, l'environnement ne les favorise pas. Deuxièmement, je pense aussi qu'on projette aussi ce qu'on vit dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'une femme qui va se balader dans la rue, bah, en fait, elle risque de se faire agresser. 90% des femmes qui ont pris le métro ont déjà vécu une agression. Bref, donc on vit dans un monde dans lequel les femmes se font aussi agresser. Et donc, on se dit que quand on va prendre la parole sur les réseaux sociaux, on va aussi se faire agresser.
On va s'exposer.
On transpose ce qu'on vit dans la vraie vie sur les réseaux sociaux. Et donc ça, bah, ça crée la peur, ce qu'on appelle la peur des haters, mais la peur de manière plus générale des contradicteurs. Et la troisième chose, je pense qu'on subit plus effectivement le syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. L'exemple par rapport à ça, c'est que les femmes, elles postulent les hommes postulent au job qu'ils veulent, les femmes postulent au job qu'elles pensent pouvoir avoir. Donc ça montre bien à quel point nous, on a besoin de cocher toutes les cases, que ce soit parfait, le syndrome de la bonne élève, quoi. Donc là, ça donne un peu toutes les raisons pour lesquelles je pense qu'il y a moins de femmes qui sont présentes et moins visibles, notamment sur des sujets d'expertise. Première chose. Et le choix, moi, que j'ai fait sur les produits que je vends, c'est des produits en non-mixité. Et ça, c'est un choix fort. C'est-à-dire que c'est que des femmes. Et c'est un parti pris parce que je pense que ça crée un espace safe. Il n'y a personne qui va te dire « Oui, mais t'es sûre que c'était sexiste ?»« Oui, mais en fait, est-ce que ça... tous les hommes ne sont pas comme ça. » En fait, personne ne va venir remettre en question ta parole. Ici, on te croit. Et ça crée un espace suffisamment safe pour qu'on partage aussi les problèmes qu'on vit de manière la plus libre possible. Et ça crée des choses incroyables. Et ça, pour le coup, je suis hyper fière de ça parce que la non-mixité, dans ce cadre-là, dans l'objectif de s'organiser pour prendre le pouvoir dans un espace de mixité, c'est pas une fin en soi, ça a été vraiment... C'est un des points centraux aussi du bootcamp.
Magnifique. Et continuons un peu dans ton parcours. Donc là, tu deviens recruteuse dans des profils un peu scientifiques. Te voilà un peu, tu découvres le copywriting. À quel moment tu bascules en fait en devenant en faisant du copywriting ton métier?
Ouais. Oh non, j'ai démarré dans le commercial. Tu vois, je te disais, chasseuse de tête, c'est commercial au sens large du terme. Soit tu vends un poste, soit tu vends des mandats, tu vois. Et j'ai basculé au marketing. Parce que dans ma boîte, donc j'avais changé de boîte entre-temps, j'étais dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement. Et donc ça a été mon premier contact avec l'enseignement. Et j'ai adoré enseigner. Donc ça, c'est, ça aura toute son importance pour la suite, je le pose là. Et en fait, j'étais au commercial. Et j'ai basculé au marketing parce qu'il y avait une place qui se libérait, quelqu'un qui partait. Et à ce moment-là, mon boss, il m'a donné les clés du newsletter à 30 000 personnes. Et il m'a dit,
vas-y,
à toi de jouer. Et je le remercierai tout le temps parce qu'il m'a fait confiance là-dessus. Bon, en même temps, il n'y avait personne d'autre sous la main, mais bon, voilà. Et je me rappelle toujours, la première fois que j'ai envoyé cette newsletter, j'avais passé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et c'était dur pour moi parce qu'il fallait que je combatte mon syndrome de l'impostrice. Et là, j'ai reçu des retours d'email. Il y a genre 3 retours d'email. Ah oui, mais t'as fait une faute là. Et ça, c'était hyper dur. Je l'ai pris en pleine gueule parce que ça me refaisait penser à la petite Nina qui avait moins 10 en dictée contre laquelle j'ai passé tant d'années à me battre et à la rassurer. Bah là, la Nina, elle était de nouveau en insécurité parce qu'il y a des gens qui lui disaient...
Très dur cette newsletter. Moi aussi, quand on a lancé la newsletter des éclairs, je crois qu'au bout de la deuxième, on a fait une énorme faute d'orthographe et on ne savait plus comment faire pour leur dire désolé à notre communauté. Enfin, tu perds toute ta crédibilité alors que tout le reste de l'email était super cool, quoi.
Ou sinon, bah, tu choisis de te dire que l'important, c'est pas l'orthographe, en fait, que l'important, c'est finalement le fond de ce que tu as à dire. Et ça, c'est à ce moment-là que j'ai fait la paix avec ça. Je me suis dit, mais en réalité, est-ce que c'est parce qu'il manque un S que t'as pas compris la phrase, que t'as pas compris le sens de la phrase? Non. Bon, alors qu'est-ce que tu m'emmerdes, en fait? Et vraiment, tu vois, et donc il y a cette espèce de rigidité par rapport à l'orthographe qui rend les choses très élitistes. Et donc finalement, ma position par rapport à ça, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas la parole par peur de faire des fautes d'orthographe.
C'est vrai.
Moi la première, et aujourd'hui moi j'ai choisi de dire mais écoutez, écrivez même en faisant des fautes, mais le plus important c'est que vous preniez la parole, parce que sinon ça fait que la parole elle est détenue par une petite partie des gens, celles qui déjà savent écrire parfaitement, celles qui ont confiance en eux pour le faire et celles qui ont encore plus d'assurance pour publier. Or ça, je pense que ça a créé un monde élitiste, et donc moi je me dis ok, en fait on veut que moi j'aimerais que la parole soit distribuée de la manière la plus égale, et donc j'ai pris le parti de dire écris même si tu fais des fautes, et je l'applique à moi-même. Il m'arrive parfois de faire des fautes et j'essaie d'en faire le moins possible évidemment, mais entre faire écrire et faire une faute et ne pas écrire, je choisis de le faire quand même.
Bravo. Donc tu es dans l'école et ensuite...
C'est ça. Et donc là, je suis au marketing, ça se passe super bien, il y a le Covid. Et là, je fais un email qui génère 500 000 euros de chiffre d'affaires, tout simplement.
500 000 euros de chiffre d'affaires?
Ouais, en un email. Alors, ce n'est pas moi toute seule, c'est un email qui a généré 250 rendez-vous sur l'agenda des commerciaux. Et derrière, les commerciaux s'occupaient du closing. C'était un contexte particulier, c'était le Covid. Il y avait aussi des aides de l'État qui étaient permises, donc... Il y avait un contexte, mais quand même, chiffre d'affaires de la boîte. Et donc moi, j'ai dit, waouh.
Mais moi, je te laisse jamais partir après ça.
C'est trop puissant, c'est trop bien. Et donc là, ça allume une étincelle dans ma tête. Je savais que c'était puissant. Ouais. Mais là, je me dis, waouh, c'est incroyable. Et donc, je me mets à fond sur le copywriting. J'apprends tout, je consomme tout. Je regarde un milliard de formations, je regarde un milliard de livres, plutôt bien ou pas bien. Parce qu'il y a des méandres un peu dans le copywriting. Il y a des trucs pas très, très clean de gens qui font sur Internet, c'est pas foufou. Mais bon, je regarde tout, j'observe. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'y a aucun livre écrit par des femmes.
Waouh.
Donc je me dis, waouh, ok, c'est quand même un peu bizarre. Et est-ce
que quand tu lis et que tu fais toutes ces recherches et que vraiment là, tu te mets à jour un peu sur le sujet, tu t'aperçois que finalement, toutes les méthodes que toi, tu as appliquées dans tes emails, dans tes textes, inconsciemment, finalement, ça a été théorisé aussi par d'autres. Enfin, moi, je sais que quand j'ai lancé Les Éclaireux, c'est moi qui me suis... occuper toute la ligne édito et de tout le marketing, et en fait j'avais jamais lu, tu vois, de livres sur l'écriture ou sur le market, mais en fait j'ai fait les choses inconsciemment et en fait ça a été théorisé par c'était les règles de base du marketing. J'étais là, je fais oh bon, ok.
Ouais, c'est clair, c'est que t'avais des intuitions, tu vois, et ces intuitions elles viennent parce que t'as peut-être beaucoup lu, tu vois, de presse, et donc ça t'est venu un peu en tête. Et oui, il y avait des choses qui ont été théorisées et que je me suis dit, en fait, c'est génial, c'est exactement ça que je fais. Et ça m'a permis d'aller encore plus loin dans cette
discipline. Ça a mis des mots aussi sur tout ce que tu avais mis en place. Quoi,
exactement.
Déjà.
Exactement. Et je me suis rendu compte autour de moi, j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de femmes.
Et donc, du coup, là, tu décides quoi, de te lancer?
Et là, je change de boîte. Donc, je vais dans une agence de marketing, globalement, une formation agence. Et j'y reste 8 mois. Et pareil, je prends en charge la newsletter et les gens sont super contents de cette newsletter. Donc là, je me rends compte encore que, bon, bah, en fait, y a un truc, tu vois, je sais pas moi, dans mon petit écosystème de recruteurs, c'est plus large que ça. Et à ce moment-là, ben, la boîte, en fait, je décide de quitter la boîte, tout simplement, parce qu'il y a un moment où il y a beaucoup de gens qui partaient, etc. Bon, la boîte qui change, tu vois. Et donc, je quitte cette boîte et je décide de me lancer. Donc, je négocie une rupture conventionnelle. Et deux semaines après, donc j'ai fait ma rupture conventionnelle et tout. Je suis contente, je me dis bon, ok. Et deux semaines après, je découvre que je suis enceinte.
Wow.
De mon premier enfant. Et donc là, je me dis ok, est-ce qu'on continue...
C'est le bon timing.
Est-ce qu'on continue le projet de monter sa boîte? Est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Est-ce que tu avais la fibre entrepreneuriale en toi ou vraiment c'est venu par hasard?
Non, pas du tout. C'était pas un objectif pour moi de lancer ma boîte. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimais beaucoup gérer mon temps comme je voulais. J'avais beaucoup de contraintes de Nina sa personne. C'est-à-dire que...
Nina avait besoin de son espace vital.
C'est ça, Nina avait besoin de son espace vital. Et donc, j'ai eu la chance de bosser dans des boîtes dans lesquelles je pouvais faire un peu ce que je voulais. Mais je me suis dit, bon, ok, le pourcentage des boîtes dans lesquelles tu peux débarquer à l'heure que tu veux, travailler comme tu veux, où tu veux, il n'est pas énorme. Donc, soit je me mets à rechercher une boîte qui me donnera ces conditions-là, et en même temps, qui ait une mission qui m'intéresse, et en même temps, qui recrute. Bon, ça faisait quand même beaucoup de choses qui étaient un peu...
Un frein à l'emploi, quoi.
Et ce qui s'est passé, ce que j'ai pas dit et qui est important, c'est que le fait d'avoir posté de manière pratiquement continue, pratiquement toutes les semaines, ben, toutes les semaines même, pratiquement tous les jours, quand j'étais salariée, ça m'a permis de constituer une espèce de communauté qui, alors que j'étais salariée, alors que j'avais rien à vendre, bah, me suivait. Les gens connaissaient Nina Ramen, pas parce que j'avais mon entreprise, pas parce que c'était mes clients, mais juste parce que j'étais une experte dans ce que je faisais, que je partageais ce que j'apprenais. Donc ils m'ont connue quand j'ai fait mon premier talk, j'ai raconté comment j'ai fait ma première scène. Après, j'ai raconté comment je suis devenue marketeuse. Après, j'ai raconté comment je faisais du copywriting. Je partageais mes tips. J'apprenais vraiment au public. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça aussi c'est un élément qui est important, je commence à avoir une bonne communauté. Je sais pas, je vais avoir 40 000 personnes, je pense, sur LinkedIn. Et donc je me suis dit, ben, ok, je me lance. Et donc là, bah, bébé, je me dis, bon, bah, j'ai 9 mois pour créer une boîte rentable. Et donc le fait d'avoir un bébé et d'être enceinte, ça m'a vraiment mis un espèce de compte à rebours parce que je connaissais pas la Nina maman. Je me suis dit, mais ça se trouve, j'aurais plus envie d'entreprendre en fait après. Je sais pas, ça va peut-être me matrixer le cerveau.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, je me suis mis en tête, en 9 mois, de construire le truc le plus ouf que je pouvais, une boîte rentable. Et ça a été top, puisque la première année, tu vois, j'ai fait 250 000 euros de chiffre d'affaires toute seule, en fait, sans quasiment personne. Bon, j'ai des freelances avec qui je bossais un peu, mais tu vois, c'est quasiment le.
Et c'est un conseil que tu donnes pour toutes celles et ceux qui se lancent de se mettre aussi des objectifs, certes, mais accompagnés de deadlines. Enfin, moi, je sais aussi que quand je me suis lancée dans les éclaireuses, j'habitais au Canada avant, je travaillais chez Google et j'étais revenue en France en me disant, bah voilà, t'as un an pour construire une communauté, pour voir si le projet prend et pour faire une petite levée de fonds qui va te permettre finalement de financer ton entreprise. Et je sais, enfin, vraiment, je m'étais mis ça en tête. Et si j'avais pas atteint ces deux objectifs, je sais pas si j'aurais continué.
Ouais, c'est super important d'avoir un objectif pour plusieurs raisons. Déjà, ça te donne une direction et ça te permet de prioriser. Parce que dans une boîte, à partir du moment où tu es toute seule, tu as un milliard de trucs à faire. Ouais, tout est une priorité. Donc, en fait, est-ce que ta priorité, c'est augmenter ta communauté? Moi, c'était construire une boîte rentable. Donc, il y avait cette notion de rentabilité. Faire de l'argent, pour moi, c'était important. C'était important parce que j'avais besoin d'être certaine que je pouvais me payer autant que ce que j'étais payée en tant que salariée. C'était ma métrique à moi. Ça aurait pu être autre chose. Moi, c'était mon choix de me dire, voilà, là, je peux me payer autant que j'étais payée dans mes précédentes boîtes. Et c'est ça qui allait me rassurer. Et donc, je pense que la première chose, c'est déjà d'identifier ce qui, pour toi, est un cap. Et la deuxième chose, c'est de s'y tenir. Et donc, tout le reste n'était plus prioritaire. La priorité, c'était faire de l'argent. Ah, vraiment. Et donc, quand la priorité, c'est faire de l'argent, ta priorité, c'est pas choisir un logo, c'est pas faire un site internet. Ta priorité, c'est de trouver des clients, tu vois. C'est vraiment ta charte graphique, c'est pas une priorité. Ta priorité, c'est d'aller trouver de la thune. Et donc, tous les matins, ben, tu te lèves et c'est ta priorité. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. Les décisions sont beaucoup plus simples. Il y a une phrase qui dit « choix difficile, vie facile ». Donc, plus tu vas faire des choix difficiles, c'est-à-dire te dire que rien n'est plus important que dans ma boîte que ça. Et plus, ben, derrière, ta vie sera facile parce que tous les matins, ton objectif, c'est juste de faire rentrer du CA. Aujourd'hui, bah, ma boîte a changé, j'ai plus les mêmes problématiques. Et donc, mon objectif, là, c'est le recrutement, par exemple. Mmh. Mais parce qu'une fois que tu as de l'argent, bon, bah, ok, en fait,
faut un peu le dépenser pour se développer.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais premier objectif, c'était ça. Et ça a été hyper important. Et dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent avec. Avec une rupture conventionnelle ou avec le chômage, et tu sais que t'as le temps. Tu te dis, ah, ça va, tranquille. Et donc, moi, je m'étais mis une deadline plus proche. Et je pense que ça m'a aidé parce que probablement que si j'avais pas été enceinte, j'aurais pas eu la deadline de 9 mois. Et peut-être que j'aurais pu se traîner.
J'aurais eu celle du chômage, peut-être.
J'aurais eu celle du chômage, mais tu vois, je me suis dit, bon, ah, ça va. Et.
Et en quoi ça consiste finalement, bon, ton métier, tu l'as expliqué, mais ton quotidien concrètement?
Alors aujourd'hui, mon quotidien ressemble plus à un quotidien de chef d'entreprise qu'à un quotidien de copywriteuse. Parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai une boîte, là je projette 350 de chiffre d'affaires, 400 de chiffre d'affaires sur l'année 2. Donc ma problématique au début de cette année, c'était que j'avais la queue devant le restaurant. C'est-à-dire que j'avais plus de clients que je pouvais servir. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, ma problématique... Bah, c'est plutôt
c'est des problèmes de riches quand même, c'est bien.
C'est tout à fait des problèmes de riches. Mais tu vois, il y a cette pression de te dire bah, peut-être que le client qui fait la queue, en fait, il va partir dans l'autre restaurant, en fait, parce qu'il n'y a pas de queue, parce qu'il est peut-être aussi bon que le tien. Et donc, tu as cette un peu pression où tu te dis, bon, ok, il faut que j'arrive à délivrer là-dessus. Donc, mon quotidien aujourd'hui, il est... Enfin, je suis passée de solo à CEO. Ce que je dis souvent, c'est vraiment mon année solo à CEO. Solo, c'est quand tu fais un peu tout toi-même, et CEO, c'est quand tu te dis, bon, ben... Qui est-ce que je pourrais recruter pour faire les choses mieux que moi? Parce qu'en réalité, bah Nina, aujourd'hui, elle fait tellement de choses. Elle gère les finances de la boîte, elle gère le design. Il y a Nina copywriteuse, il y a Nina commerciale, il y a Nina prof qui délivre son produit, il y a Nina coach qui coach des... Il y a Nina correctrice de poste, voilà. Il y a Nina qui vient en interview, tu vois. Et en fait, mon métier aujourd'hui, il est constitué de plein de petites choses. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à recruter des gens qui font mieux que moi ce que je fais, dans la mesure où c'est 100% de leur temps. Et je vais donner un exemple. Là, je bosse avec une coach sur le bootcamp et on fait des évaluations un peu sur les notes pour voir ce qu'on peut améliorer, etc. Donc, on demande une évaluation sur chaque item. Et cette coach, elle a des meilleures notes que moi en coaching. Et je me dis, mais c'est là où j'ai réussi, tu vois, parce qu'en fait, la qualité du produit, elle est maintenue, elle est même améliorée. Moi, j'y passe moins de temps. Et finalement, bah, c'est meilleur pour la boîte. Et donc là, mon enjeu en ce moment, quand tu parlais de mon quotidien, ben, y a une partie où j'écris. Donc le lundi, c'est réservé à l'écriture et à la création de contenu. Grosso modo, en ce moment, c'est une newsletter par semaine et 3 posts LinkedIn. C'est le minimum. En ce moment, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que je peux augmenter cette jauge en recrutant des personnes sur cet item. Mais c'est difficile de déléguer cet item parce que c'est ma zone de génie.
Oui, complètement.
Donc, c'est compliqué de déléguer le truc sur lequel tu es excellente et où sur le marché, c'est dur de trouver quelqu'un de meilleur que toi sans aucune prétention, mais c'est un problème quand même. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a une partie où je vais sur mes produits, donc notamment le bootcamp sur la partie live. Donc, je délivre auprès de mes clientes. Il y a une partie où bah, je fais du feedback à mon équipe. Aujourd'hui, on a à peu près une douzaine de personnes, pas en plein temps, mais en freelance. Donc, il faut bah, récupérer, faire du retour, voir si tout va bien, mettre les bonnes conditions pour elles. Et il y a le vendredi. Le vendredi, c'est CEO Day. Et donc, le CEO Day, c'est quoi?
C'est tous les trucs relous, l'administratif
ou même pas. Parce que j'ai une assistante. C'est le premier poste que j'ai recruté, d'ailleurs, pour celle que... Parce que moi, je sais que j'aurais aimé savoir il y a quelques temps qu'est-ce que j'ai délégué en premier. Ouais. Premier truc que j'ai délégué, c'est l'admin, les factures, vraiment les relances et tout. C'est vraiment le premier truc que j'ai délégué.
Ouais, bah moi aussi, franchement. Enfin, le commercial, parce que c'était quelque chose sur lequel j'étais moins douée.
Okay.
Le commercial et après l'administratif.
Ouais. C'est l'admin. Et le deuxième poste que j'ai beaucoup, beaucoup délégué, c'était l'organisation. Et aujourd'hui, tu vois, le produit du bootcamp, il y a une CEO qui le délivre, une Chief of Operations. Et en fait, elle a... C'est elle qui s'occupe de livrer le produit. Donc, tu vois, moi, c'est plus trop de ma responsabilité. Et ça, ça a été trop bien parce que moi, je sais que bah, l'organisation, c'est pas ma zone de génie. Maintenant, le plus dur qui reste à déléguer, c'est vraiment le market et la vente parce que c'est mon ADN, quoi, je pense. Et donc, le CEO Day, qu'est-ce que c'est? C'est une journée où je passe un jour à réfléchir et à prendre des décisions.
Bravo.
J'essaye.
Bravo, parce qu'en fait, c'est nécessaire pour innover, pour... se ressourcer pour développer, booster et stimuler sa créativité.
Parce que c'est pas quand t'es en train...
Et en fait, on a toujours la tête dans le guidon, donc...
C'est pas quand t'es en train d'écrire un post LinkedIn, c'est pas quand t'es en train de faire une réunion avec ta presta que tu prends des bonnes décisions. Tu prends des bonnes décisions quand t'es posée toute seule et que tu réfléchis de manière plus globale. Et c'est ce qu'on appelle réfléchir sur sa boîte et pas dans sa boîte. Dans ta boîte, c'est quand t'es en train de produire, faire des trucs. Sur sa boîte, c'est quand t'arrives à t'extraire et à te dire, ok, quelle décision je peux prendre aujourd'hui sur le long terme qui va m'aider. Exemple, recruter une personne. Autre exemple, est-ce que je dois lancer une chaîne YouTube? Autre exemple, est-ce que maintenir une newsletter par semaine, c'est bien? Ou est-ce que stratégiquement, il faudrait plutôt faire autrement? En fait, tu vois, tu as vraiment cette idée de prendre des décisions. Et c'est extrêmement dur. Et le cerveau humain, en fait, n'est pas fait pour prendre beaucoup de décisions. Et donc, se consacrer à ça, c'est vraiment trop, trop bien. Et dernière chose aussi que je fais, et que là, je vais faire de plus en plus, c'est faire une retraite créative. Donc une fois par mois entre entrepreneurs d'ailleurs c'est envie de rejoindre
avec
hyper
plaisir.
Cool
enfin,
ouais
je viens.
trop bien et on se dit on passe 48 heures c'est à 1h30 de Paris tu prends ta voiture tu y vas c'est dans des tiny house donc des petites maisons
trop
beaux magnifiques au milieu de la forêt et on se dit pendant 48 heures on se consacre à la créativité. Parce que la créativité, elle a besoin d'espace. La créativité, elle n'arrive pas quand tu es dans le métro avec 10 000 personnes à sentir les dessous de bras des uns et des autres ou quand tu es dans le stress de ta vie. La créativité, elle a besoin d'espace. Et donc, on utilise ce moment-là pour créer... Alors, il y en a, ça va être des chapitres de leurs livres. Il y en a, ça va être des posts LinkedIn, d'autres des newsletters. En fait, c'est des retraites créatives où on se consacre uniquement à ça.
Magnifique. Et tu parlais aussi de tes clients, le fait que tu avais la queue devant Nina Ramen ou Ramène ta fraise. comment tu fais ? Enfin, en fait, tu dois avoir des clients de tous les horizons qui ne vendent pas le même produit, qui ne s'adressent pas à la même cible. Comment finalement tu arrives à changer entre guillemets du coq à l'âne et réussir à adapter ton discours à des cibles qui sont totalement différentes et qui sont aussi différentes de ta propre communauté que tu as réussi à construire aussi. Donc en fait, tu as quand même cette faculté à pouvoir parler à des cibles totalement différentes et pour des marques qui sont aussi totalement différentes.
Ouais, c'est ça. En réalité, le copywriting, c'est de la vente. Mais c'est aussi beaucoup de psychologie. Et donc, quand tu arrives à comprendre la personne en face de toi, tu arrives à comprendre c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses douleurs, qu'est-ce qui la freine et où est-ce qu'elle veut aller, et tu as la méthode pour découvrir ça, tu sais faire l'écriture. L'écriture, en réalité, ce n'est que les 20 derniers pourcents. 80%, c'est découvrir à qui tu t'adresses. Je donne un exemple. Imagine que je vends du CBD, une huile de CBD, on va dire. Si je dois la vendre à un mec qui fait du sport, en fait, je mettrai en avant le bénéfice récupération sportive. Si je dois la vendre à un jeune qui veut se désintoxiquer du cannabis, je lui dirai que ça va lui donner un substitut et ça va diminuer le stress qu'il va ressentir sur son sevrage. Et si je devais le donner à Nina, je lui dirais ça va te permettre de mieux dormir et de réduire ton stress. Donc tu vois que là avec un même produit en fait tu vas adapter en fonction de ta cible et tu vas pas du tout amener les arguments et si tu commences à parler de performance sportive à Nina Ramen je vais te dire non mais de quoi tu me parles là tu vois ça ne m'intéresse pas. Donc ton enjeu en tant que marketeuse et copywriter, c'est d'abord d'arriver à comprendre ton persona. Et ça, c'est ce qu'on fait. On fait des études, en fait. Ça dure... c'est vraiment 80% du travail pour ensuite leur amener le bon argument qui sera totalement différent. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je parlais du bootcamp et que je te disais les trois grandes problématiques, c'est je manque de temps, je manque d'idées, j'ai le syndrome de l'imposteur. Parce que ça, en réalité, je le connais très bien parce que je l'ai découvert. Et toi-même, tu supposes que ton persona aura tel problème, mais en réalité... peut-être que pas du tout. Et donc, c'est à toi de le découvrir. Et donc, pour ça, c'est une étude que tu dois faire en fonction de ton produit et en fonction de ton marché.
Et ça, est-ce que tu t'aperçois que finalement, tu as des clients qui viennent et qui te disent, moi, ma cible, c'est ça. Et toi, tu arrives et tu leur dis, pas du tout, ta cible, c'est pas cela. Je suis désolée, c'est pas le bon persona, c'est cela.
Alors moi, je le fais pas à leur place, je les envoie le faire. Parce que, si tu veux, je pense que c'est à eux d'acquérir cette connaissance. Parce que c'est une connaissance qu'ils auront pour leur boîte pour toujours. Et puis, il faut les convaincre. Donc, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes pour mettre un peu d'huile de coude pour après dire « Ah oui, ok, je suis d'accord avec toi. » Si toi, t'arrives en disant « Bon, je pense ça, c'est ok, t'es qui ? Tu connais pas ma boîte ?» Donc, ta légitimité, elle est pas dingue. Mais moi, ce que je fais, c'est que je les envoie faire ça. Et donc, pour celles qui nous écoutent, si vous avez un média actuellement, ça peut être une newsletter, même si elle est pas grosse. Ça peut être même un Instagram, ça peut être...
une petite communauté, quoi.
Même si vous avez 100 personnes, ça marche, en fait. Ce que je vous invite à faire, c'est à poser des questions suivantes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur les émotions. Et les désirs et les freins. Donc, ce que tu peux poser comme communauté, c'est comme question à ta communauté. Soit ça peut être un sondage, soit ça peut être, tu vois, sur Instagram, juste donner leurs questions. C'est quoi ta problématique du moment? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Avec ces réponses, déjà, ça va donner une espèce d'idée de ce qui se passe. Et l'écueil à pas faire, c'est vraiment de faire un QCM. Au début, si tu ne connais pas suffisamment ta communauté, tu ne peux pas déjà présupposer des réponses qu'elles auront. Donc au début, tu vas devoir traiter à la main. Et ça marche sur une newsletter. Dis aux gens, ok, quelles sont tes trois problématiques du moment? Moi, je le fais sur ma newsletter et je dis, donne-moi tes trois problèmes. Et en contrepartie, je t'offre, souvent c'est un petit bonus, c'est genre trois vidéos qui ont changé ma vie. Et les gens sont trop contents de répondre, trop contents d'avoir le bonus. Et toi, ça te permet d'avoir un peu cette étude en continu sur ton persona. Donc tu peux le faire vraiment à tous les niveaux. Une fois que tu as un peu plus creusé, tu vas avoir les cinq grandes catégories qui vont se distinguer. Là, tu peux aller commencer à faire des QCM et là, tu peux commencer à creuser. Donc là, on a fait un peu les freins et les douleurs. Et l'autre chose c'est que tu peux faire, c'est les désirs. Donc, imagine ta vie dans 3 ans. Qu'est-ce que c'est, ta vie idéale sur ce domaine? Comment ça se passe? Et donc là, ça te permet un peu d'essayer de projeter la personne. Exemple, dans ma vie idéale, j'ai minimum... un client par semaine qui vient en inbound, donc en entrant via LinkedIn ou via ma newsletter, et je n'ai plus besoin de prospecter. Donc ça te donne déjà une promesse sur ce que tu peux faire pour la personne. Donc ça, c'est vraiment des petits outils qui sont hyper actionnables et que j'invite toutes les personnes qui ont même peu, beaucoup de clientes me disent « Mais moi, tu vois, Nina, j'ai pas une communauté de 85 000 personnes comme toi. » Mais moins t'en as et mieux c'est, parce que plus ça va être restreint. Moi, sur 85 000 personnes, c'est compliqué d'avoir des tendances communes. Plus c'est gros et plus c'est compliqué. Donc, profites-en si t'as un petit business de le faire, parce que tu vas être hyper précise. Et dernière chose, c'est contre-intuitif, mais plus ta promesse va être précise et plus, en fait, elle va être impactante. Exemple, je m'adresse aux femmes entrepreneuses, solo, qui font moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est beaucoup plus précis que de dire je m'adresse à toutes les femmes qui entreprennent.
Complètement.
Et tu auras beaucoup plus envie d'acheter quand tu sais que c'est pour toi.
Et la qualité du contenu va être beaucoup plus ciblée, donc mieux.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Est-ce que tu utilises, je ne sais pas, des outils, des ressources qui t'aident régulièrement? Est-ce que tu en as à nous conseiller? Et je parle aussi notamment d'Étienne, parce que en réalité, sur ton site, il y a quand même pas mal de ressources. Tu as la newsletter dont tu as parlé, dans laquelle tu donnes plein de tips. Tu as des cours en ligne. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous parler aussi des contenus que tu proposes, mais également ceux que tu utilises pour toi pour continuer à t'améliorer dans ton métier?
Oui, merci. Effectivement, il y a 47 ressources de copywriting gratuites. C'est sur mon site, sur ninaramen.com. Et vraiment, tu peux y aller. Et là, tu as tout ce qu'il te faut. Et c'est un peu les ressources que moi, j'aurais aimé avoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, qui existent, pas forcément en français. Et l'autre chose que je peux conseiller, petit outil facile, c'est Answer Socrate. Donc Answer comme réponse et Socrate comme Socrate. Et donc là, c'est un outil qui te permet de comprendre les questions qui sont posées à Google. Donc c'est-à-dire que Google, c'est... probablement la mine d'informations, un peu, tu sais, les secrets des personnes. Tu dois découvrir les secrets inavouables, en fait, en copywriting. Tu dois découvrir vraiment ce que les gens n'osent pas demander. Et ce que les gens n'osent pas demander, ils demandent à Google, tu vois.
C'est très sympa.
Donc, tu tapes newsletter et ça te donne des exemples. Quel newsletter prendre, c'est quoi les outils. Donc, ça te donne une idée des questions que les gens se posent. Et ça, c'est génial. Donc, ça, c'est un peu ton enjeu.
Ça, c'est un super tip. Ouais. Et je me le note en même temps.
Vas-y. tu peux demander à ChatGPT.
Ouais, on va en parler d'ailleurs.
Alors, je vais pas spoiler, mais ChatGPT, c'est un mauvais écrivain, mais c'est un très bon persona. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui joue très bien les jeux de rôle. Donc, faut s'en amuser et on développera un peu plus tout à l'heure, si tu veux. Les livres, donc il y a le livre évidemment que j'ai sorti, Copywriting, mais il y en a pas mal. Il y en a un qui s'appelle The Borrowed Letters de Gary Albert, qui est en fait un homme qui est en prison. Et qui envoie des lettres à son fils pour lui expliquer le copywriting. C'est un copywriter, il est en prison, on ne sait pas pourquoi dans le livre. Et en fait, il fait des lettres et il explique à son fils. C'est un peu des leçons de vie, des leçons d'écriture. Et il y a On Writing de Stephen King. Et ça m'énerve parce que j'ai cité que des hommes. Et donc vraiment...
Non, tu t'es cité maintenant, c'est bon. Là, on a le livre de Nina Ramen.
Je me suis cité, mais voilà, c'est un peu des ressources comme ça que vous pouvez trouver sur les livres, en livre. Il y a beaucoup de choses en anglais.
Et j'aimerais bien parler aussi de quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport, mais quand même. C'est-à-dire que... on a parlé en fait de tous tes conseils, de ton métier, de comment devenir copywriter, etc. Et quand j'ai fait des recherches sur toi et j'ai écouté pas mal d'interviews de toi, tu parles sans complexe aussi d'argent et de tes tarifs. Et c'est ce que j'ai vraiment aussi adoré dans ta personnalité, parce que c'est quelque chose qui reste aussi très tabou en France. Tu factures tes prestations assez chères, autour de 500 euros de l'heure, même si ça se trouve ça a encore évolué depuis, parce que tu as aussi grandi et évolué dans ton métier. Et il y a beaucoup d'entrepreneuses ou des freelances, tu vois, qui se lancent et elles doivent passer par la case fixer le prix de son produit, et c'est encore plus dur quand le produit c'est toi. Et en plus, les femmes, quand on parle d'argent et doivent fixer un tarif, ont tendance à faire deux choses. La première chose, c'est l'undercharging, c'est-à-dire d'évaluer leur prix finalement, et faire après ce qu'on appelle l'overdoing, c'est-à-dire travailler deux fois plus pour justifier le prix de leur prestation. Donc, comment toi, tu t'es dit, comment tu as évalué ta valeur et tu t'es dit, je peux et je dois demander ce tarif.
Ouais, super intéressant. Je te rejoins sur toutes les femmes que j'accompagne sous price souvent. Et c'est un travail sur soi, et c'est un travail aussi qui s'inscrit dans le monde dans lequel on vit, parce que nous, les femmes, on est plus éduquées à être dans le care, dans le fait de s'occuper, de se donner de sa personne gratuitement pour faire en sorte que le monde aille mieux, que notre entourage soit bien. Et ça, évidemment, c'est du travail qui est non rémunéré. D'ailleurs, le travail à la maison, on sait que les femmes occupent la majorité du travail qui est fait à la maison, et c'est du travail qui est non rémunéré. Tu vois, s'occuper des enfants, etc., c'est du travail qui est non rémunéré. Donc, on a l'habitude de faire du travail non rémunéré. Et donc, finalement, ça ne nous positionne pas de la même manière. Donc, totalement d'accord avec toi sur le constat. Mon retour d'expérience par rapport à ça, plusieurs choses. Deux méthodes. La première, c'est comment est-ce que tu peux créer un prix objectif par rapport à toi et être sûr de ne jamais perdre d'argent et te retrouver à la fin du mois en galère. Tu prends ce que tu veux toucher à la fin du mois en net, imaginons 2000 euros, et tu rajoutes tes charges. Donc si tu es en micro-entreprise, c'est 22%, si tu es en EIRL, c'est différent. Bon bref, tu mets toutes tes charges. Imaginons que, et pareil, tous les prestats que tu dois payer. Donc vraiment, tu fais tout full package et tu regardes combien ça te fait en chiffre d'affaires présumé. Donc imaginons que ce soit 4000 euros, le double. Donc tu sais qu'il faut que tu fasses 4000 euros de chiffre d'affaires pour en avoir 2000 dans ta poche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième variable, c'est le temps dont tu disposes. Donc là, je parle notamment des personnes qui vendent des prestats. Sur ta semaine, tu as 5 jours, mais ce n'est pas 5 jours facturables. En réalité, tu as un jour que tu vas passer à ton admin, à faire tes relances clients, à faire ton commercial. Voilà. Donc ça, c'est un jour déjà que tu ne pourras pas facturer. Et si tu te dis que tu le factures, tu vas te retrouver à faire tout ça le week-end. Mmh. Ça, tu ne veux pas. Et moi, je me laisse un jour juste pour le marketing. C'est-à-dire que c'est un jour destiné au faire savoir. Venir ici, écrire une newsletter, écrire des posts LinkedIn. Donc en réalité, dans ta semaine, tu n'as que 3 jours facturables et pas 5. Donc, ensuite, tu fais 3 jours facturables fois 4 semaines, ça fait 4 fois 3, ça fait 12, tu fais 4000 euros divisé par 12. Déjà, ça te donne ce en quoi tu ne dois pas, ce en dessous de quoi tu ne dois pas aller. Tu ne dois pas aller en dessous de ça, sinon tu perds de l'argent. Sinon, tu perds de l'argent, sinon c'est dangereux pour toi. Donc ça, déjà, c'est pas mal parce que ça t'enlève déjà 2 jours dans ta semaine, voire encore un jour parce que tu as envie de passer du temps avec ta famille, aller au spa, aller
prendre soin de soi.
Prendre soin de toi, voilà. Donc, ça peut même être 2 jours par semaine que tu factures. Et donc déjà, ça va te donner une idée de ton taux journalier, en dessous duquel le plus bas. Et donc, quand tu te retrouves en négociation client, ça te donne des armes. Alors évidemment, tu ne vas pas lui dire ça. Mais toi, tu sais que s'il te propose en dessous de ça, tu n'es pas rentable et donc tu dois dire non. Et donc, ça te rassure dans le fait que tu dois dire non parce que ça te donne une alerte, quelque chose d'objectif. Et ça te donne un seuil. Et pas toujours de dévaluer, de dire « Ok, je peux accepter, mais nanana nanana ».
Comment t'es sûr que ce seuil, il soit pas déjà, au-dessus du prix du marché aussi, parce que...
Bah, de toute façon, s'il est au-dessus du prix du marché, ça veut dire que, enfin, ça veut dire que, en fait, il faut que tu changes de marché. Du coup, ça c'est intéressant. Donc il y a ça, et il y a la deuxième manière de faire. Moi, ce que j'ai fait, donc ça, c'est une manière d'avoir un repère objectif. Une fois que tu as ça, bon, l'enjeu, c'est d'avoir plus. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu vas confronter ce prix au client. Donc une fois, deux fois, trois fois. À partir du moment où tu arrives à le vendre deux fois, ben, tu l'augmentes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vendais une fois, deux fois. Donc, c'était cinq séances à 990 euros. Donc, j'ai vendu cinq séances à 990 une fois. C'était trop facile. J'ai fait, bon, OK, c'est pas assez cher. Mmh. Donc, j'ai augmenté. Je suis passée à 1002. J'ai vendu. Je fais, OK, c'est pas assez cher. Donc, j'ai vendu à 1005. Et donc, j'ai pas eu de friction comme ça. Et à la fin, c'est un produit que je vendais 3000 euros. Donc, wow. C'était un produit de coaching individuel.
Okay. Et donc c'était près de trois fois le prix, finalement.
Exactement. Et donc, c'est un produit que je ne fais plus aujourd'hui, mais tu vois, c'est un produit que j'ai fait pendant très longtemps qui était... parce que c'était un produit qui ne demandait pas d'investissement. J'avais besoin de Google Meet et de clients. Mmh. Donc, tu vois, ça te montre à quel point tu n'as pas besoin... t'as besoin de rien pour faire tes premiers euros. Et donc, j'avais un Google Meet et donc, j'ai gagné très bien ma vie sans outils, sans machin, sans fioritures en fait. Et c'est un produit que j'ai vendu très longtemps, c'est un produit ultra rentable. Et c'est un produit où j'ai utilisé la méthode vraiment de l'escalier parce que ça te permet aussi de te rassurer sur ton prix. Ok, tu peux vendre et tu peux prendre du feedback du client. Ok, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que t'as pensé du prix? Est-ce que tu t'aurais pu payer plus cher? Est-ce que tu trouves que c'était trop cher? Et toi, ça t'auto-rassure dans ta valeur. Mmh. Et la dernière chose, c'est d'accepter que le prix, il évolue. Que ton prix, en fait, il est en constant changement, qu'il n'y a pas de bon prix. Il y a juste le prix auquel tu es capable de vendre et sur lequel tu te sens mieux. Alors, dernière question, pourquoi aujourd'hui ce prix, moi, je n'ai pas continué. Ensuite, je n'ai pas continué à le faire augmenter déjà parce que j'ai abandonné ce produit, parce que je voulais passer à un bootcamp. Mais aussi parce que un moment, plus tu augmentes ton prix, plus ça te met de la pression. Donc, qu'est-ce que toi, tu as envie de gérer comme pression derrière? C'est vrai. Ça, ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, si toi, tu vends 1000 euros ton heure, quel effet psychologique ça a sur toi? Et est-ce que cet effet psychologique, finalement, il n'est pas plus négatif que positif?
Complètement. C'est un bon point, finalement. Et en fait, tu as continué d'augmenter ton prix. Et à un moment donné, quand tu dis là, il y a friction, ça veut dire que là, quand même, tu as atteint la limite de la personne qui était en face de toi et du marché, finalement.
Ouais, moi, il n'y a jamais eu trop cette friction parce que j'augmentais beaucoup ma valeur perçue. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que on n'est pas payé à sa valeur, en fait. C'est triste à dire, mais il y a des gens qui font mon métier mieux que moi, probablement, et qui sont payés moins que moi, parce qu'il y a une autre variable qui est à quel point tu sais faire savoir. Et donc, c'est pour ça que c'est important dans ta semaine de passer une journée à travailler pour toi-même et pour ta boîte, pour augmenter ta valeur perçue, parce que bah, tu vas montrer que tu es une experte, et donc finalement, plus tu vas montrer que tu es une experte, plus les gens vont avoir confiance en toi, et plus vont pouvoir dépenser ce prix. Le mec qui a fait le logo d'Apple, bon bah il est designer, bon bah clairement je peux te dire il facture plus que 1000 euros son heure de consulting, tu vois, mais il a ce truc là de se dire bon bah voilà, ma preuve sociale, mon faire savoir est suffisamment important, voilà. Donc c'est ça en fait ce qu'il faut que tu aies en tête, et aussi cette idée que le prix n'est pas le reflet de ta valeur. Le prix, c'est le reflet de ce que tu arrives à faire percevoir de toi, le reflet de ton marché, et ça n'a rien à voir avec ta valeur, et d'ailleurs ton prix, c'est pas toi.
Et avant de terminer ce podcast et de passer à un petit passage qui s'appelle le Dicobos, j'aimerais bien qu'on parle de LinkedIn aussi un peu. C'est vrai qu'une des particularités de ce podcast, c'est que je reçois des femmes ou des marques qui ont réussi à créer une forte communauté sur les réseaux sociaux. Et toi, c'est clairement ton cas parce que tu es la boss de LinkedIn. Tu fais partie, comme tu l'as très bien dit au début d'épisode, du top 10 aussi des LinkedIn créateurs, et que tu as plus de 85 000 personnes qui te suivent au quotidien. Comment tu as réussi à créer cette communauté qui est puissante, mais qui est aussi hyper fidèle et engagée?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que j'ai commencé à créer une communauté dès le début, en fait, quand j'avais rien à vendre. Juste, je partageais beaucoup de ce que je faisais. Et j'ai fait ce qu'on appelle du building public. J'ai construit en public ce qui m'arrivait dans ma vie. Donc, quand j'ai changé de job, je l'ai dit. Quand j'avais des doutes, je les ai dit. Et donc, il y a cette idée d'arriver à maintenir une fréquence sur le long terme. Donc, premièrement, c'est la régularité. C'est ce qu'on appelle le biais de simple exposition. Plus les gens ils te voient, plus ils t'aiment. C'est mathématique, c'est-à-dire que plus ils vont créer de la familiarité avec toi et plus ils vont finalement te faire confiance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que j'ai beaucoup assumé ma vulnérabilité et je me suis montrée sous plein de facettes et beaucoup de personnes s'identifiaient à moi à plein de niveaux. et à des niveaux différents. Je parle de maternité, je parle d'entrepreneuriat, je parle de féminisme, je parle d'écriture. Et donc, il y a cette idée de... j'ai créé une vraie proximité, notamment aussi en demandant du feedback, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, ça a beaucoup aidé. Et troisièmement, c'est apporter de la valeur. En gros, il faut que tu te dises que quand tu publies, c'est pas hey, « salut, j'ai fait ma dernière levée de fonds, ça c'est cool », mais en réalité, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Quand je regarde ton post, je me dis « ok, qu'est-ce que ça m'apporte comme valeur ?» Question, c'est un post, en fait, il faut qu'il soit soit divertissant, soit qu'il me divertisse, soit qu'il m'enseigne, soit qu'il remette en question, soit qu'il crée de l'empathie. Et donc, à partir du moment où quand tu appuies sur « publier », tu réponds à une ou plusieurs de ces quatre, un ou plusieurs de ces quatre objectifs, bah, les personnes en face de toi, elles vont le lire. Et dernière chose, il faut avoir en tête que les gens, comme je disais tout à l'heure pour l'email, ils ont autre chose à faire. Il y a 10 000 posts à côté du tien. Et l'enjeu, ça va être à quel point tu vas réussir à capter l'attention. Et pour ça, bah, plus tu vas apporter de la valeur, et plus tu vas le faire rapidement, et plus ça va marcher. Petit tips super actionnable pour celles qui nous écoutent. Travaille ta phrase d'accroche. La phrase d'accroche, c'est vraiment « pourquoi je dois t'écouter ?» Attention, j'ai dit tout à l'heure, Aïda, attention, première chose. Pourquoi je dois t'écouter ? C'est ce qu'on appelle le stop scroller. Pourquoi je dois arrêter là maintenant de faire ce que je fais et t'écouter ? Ça, c'est super important. Et autre chose, si tu ne sais pas quoi écrire, appelle tes clients et demande-leur c'est quoi tes trois problèmes du moment.
Okay.
Ils vont te donner un problème et aide-les à résoudre ce problème-là. Et c'est peut-être un problème qui n'a rien à voir avec toi, rien à voir avec ton produit, mais juste essaye de les aider. Et ils te seront reconnaissants. Ils vont se dire « Ah bah cette personne est trop sympa, je vais la suivre parce que bah, de manière générale, elle m'aide. » Et quand la vente, quand ce sera le bon moment pour la vente, eh ben, ils te contacteront.
Justement, c'était ma question, si tu avais des tips pour construire des bons posts LinkedIn, mais tu viens de nous les donner. Et est-ce qu'il y a des types de contenus qui fonctionnent mieux que d'autres ? Par exemple, bah, tu vois, il y a des personnes qui sont plus à l'aise sur de la vidéo, d'autres sur de l'audio, d'autres voilà, en photo. Est-ce que le type de contenu que tu vas poster sur LinkedIn va jouer aussi sur tes perfs ?
Ouais, ça dépend en fait. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est l'algorithme. Moi, je dis toujours, faut pas se fier à l'algorithme. Faut essayer de plaire à des humains, parce que l'algorithme, en fait, il peut changer. Donc, donc, premièrement, ne pas être obsédé par l'algorithme, mais plutôt essayer d'apporter un max de valeur. Essayer de choisir le média qui t'est le plus confortable et que tu pourras le plus tenir sur le long terme.
Okay. Donc, si je suis allée sur de la vidéo, je peux très bien poster voilà. Mes posts LinkedIn en vidéo.
Exactement, post en vidéo. Après, l'écrit, c'est vrai que c'est privilégié parce que les gens consomment LinkedIn sur leur lieu de travail. Mmh. Donc tu comprends bien qu'ils peuvent pas mettre des écouteurs, que c'est compliqué, etc. Donc bon, voilà, la vidéo, c'est vrai que c'est pas le média le plus dingue, mais globalement, fais le média sur lequel t'es le plus à l'aise. Et autre chose, ce qui compte davantage peut-être, c'est même le sujet que tu vas aborder. Si je parle de copywriting, mais personne ne sait ce que c'est le copywriting. Personne ne sait. Moi, je vais en soirée, les gens, ils me disent, mais tu fais quoi ? Ils pensent que c'est le copyright, tu as le droit de la propriété intellectuelle. Donc personne connaît copywriting. Et donc là, tu sais que ton potentiel de viralité, il est faible. Parce que déjà, les gens qui sont concernés, il y en a très peu. Par contre, si je vais parler de maternité, bah là, ça va concerner au moins 50% de la planète et maximum 100%, même si parfois, un regret, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Et donc, quand je vais poster sur la maternité, bah, ça va concerner plus de monde. Donc, il faut que toi, tu aies en tête quand tu fais tes posts, que tu as certains sujets qui vont être larges, mais qui vont être peut-être plus éloignés de ton domaine, mais tu as besoin d'avoir des posts larges qu'on appelle top of funnel, tofu, top of funnel, c'est des sujets larges qui vont te driver, qui vont remplir en fait ton lac et les poissons, qui vont mettre des poissons dans ton lac, et des posts plus bottom of funnel, bofu, qui vont te permettre d'aller pêcher les poissons que tu as mis dans ton lac. Mais si tu mets pas, si tu fais pas du tofu, c'est-à-dire tu fais pas des posts larges qui vont te permettre de driver beaucoup de flux, ben, en fait tu pourras jamais remplir ton lac, et si t'as pas de poste très précis, bah, tu ne pourras jamais aller chercher les gens sur ce que tu vends très concrètement.
Et LinkedIn, on se parle quand même d'une plateforme entre guillemets professionnelle. Est-ce que tu penses que tous les types de contenus et tous les types de sujets surtout ont leur place sur LinkedIn ? Parce que là, tu parlais de maternité, mais en réalité, il y a quand même un lien entre la maternité et le fait d'avoir une carrière et d'entreprendre. Mais est-ce que voilà, tu penses qu'aujourd'hui, on peut avoir tous les types de sujets sur LinkedIn ?
J'adore cette question. Parce qu'en fait, en entreprise, on a beaucoup dit qu'il faut séparer le pro et le perso. Mmh. Or, ben, il n'y a pas vraiment de séparation. En fait, ceux que ça arrange de dire ça, c'est ceux qui... c'est les personnes qui, en fait, ben, ont envie que tu aies toujours forcément une bonne productivité, etc. Mmh. Or, ce n'est pas possible, surtout pour les femmes. Il y a une femme sur quatre qui a fait une fausse couche, il y a une femme sur trois qui a avorté, il y a une femme sur dix qui a de l'endométriose. Donc en fait, la porosité entre ce qu'on vit dans notre perso, entre guillemets, et notre pro, ben, elle est à 100% pratiquement, parce que quand tu as fait une fausse couche et que tu dois revenir au travail le lundi, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pareil pour l'avortement. Donc, tu vois, amener ces sujets dits perso sur LinkedIn, moi, je trouve que c'est un excellent moyen, bah, justement, de sensibiliser le monde de l'entreprise à ce qu'on vit en réalité sur des sujets sur lesquels bah, la parole, elle n'est pas totalement libérée. Pareil, les sujets de harcèlement, tu vois, c'est des sujets sur lesquels, aujourd'hui, bah, y a beaucoup de tabous. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à libérer la parole sur LinkedIn et à un maximum sur tous les sujets. Après, il y a des choses qui vont être plus perso. Exemple... ben, je sais pas moi, t'as fait la parisienne, la course, tu vois. Ben, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir ce que ça dit de toi. Parce que finalement, la personne qui va être ta cliente potentielle, ça va être un moyen de connecter avec toi. En fait, ce qui fait que t'es unique, c'est aussi ton perso, en fait. Et l'idée, c'est un peu ce qu'on appelle la marque personnelle. C'est qu'est-ce qui fait que t'es différente ? Qu'est-ce qui fait que les gens s'attachent à toi ? Moi, par exemple, c'est... les gens savent que je suis devenue maman, que j'ai galéré parce que j'ai monté ma boîte en même temps, que j'écris, que j'étais dyslexique. Et c'est ça qui fait que je suis Nina Ramen. Et contrairement à toutes les personnes qui font la même chose que moi, bah, je suis différente parce que j'ai créé ce lien. Alors après, c'est à toi de maîtriser. Tu vois, tu n'es pas obligé de parler de tout. Mais c'est aussi, ça fait aussi partie de ta marque personnelle. Et je vais donner juste un dernier concept qui est... le concept du monopole personnel, c'est l'intersection entre tes compétences, ta curiosité et ta personnalité. Et dans le monopole personnel, l'idée, c'est de se dire qu'il y a, il y a 8 milliards de monopoles personnels. Personne n'aura exactement la même intersection que toi. Et c'est ça qui fait que tu vas être différent. Donc, tu as aussi intérêt à ramener des choses qui sont un peu plus, entre guillemets, perso, pour bah, montrer ta différence et faire en sorte que les gens te reconnaissent.
Et c'est un tips aussi que tu recommandes de, pour les entrepreneuses, les freelances, etc., de travailler leur personal branding. Et jusqu'à quelle mesure aussi ? Enfin, moi, ça a été très dur de me dire, est-ce que je suis Mélodie Madard ? Est-ce que je suis Mélodie des éclaireuses ? Elle ou la frontière entre les deux ? D'autant plus que moi, je vends aussi du sponsoring pour des marques. Donc, à quel moment je le facture en tant que les éclaireuses ? Ou est-ce qu'à un moment donné, on vient me chercher pour moi, mais je suis Mélodie quand même des éclaireuses. Enfin voilà, il y a ce côté où à un moment donné, qui tu es, où s'arrête ton toit, où commence ta marque, comment tu arrives un peu à gérer tout ça, quoi. Même toi, justement, tu es en plein dedans parce que tu es aussi ton propre produit. Donc...
Il y a une manière très méta de répondre à ça, qui est genre toi et ta marque et ouais. Comment tu mets des limites. Mais je prends la version plutôt pratico-pratique. Effectivement, monter une marque personnelle, moi j'ai fait le choix de créer ma marque personnelle. Contrairement à toi, j'ai l'impression que tu es plutôt partie des éclaireuses. Moi, j'ai fait le choix de partir plutôt de ma marque personnelle. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à ça. L'avantage, c'est que tu montes très vite. Parce que les gens s'attachent plus facilement à Nina Ramen qu'ils vont s'attacher à Ramen ta fraise. Tu vois, parce que ben, j'ai mon histoire, j'ai ma vie, etc. Donc ça, ça va créer... Ça, c'est beaucoup plus rapide, si tu veux. Donc, première chose. L'avantage. Inconvénient, il y en a plusieurs. C'est une boîte qui, ben, si Nina Ramen n'existe plus, la boîte disparaît. Si tu veux revendre, c'est compliqué. Si tu dis, ben, ok, c'est moi sur mon produit et que t'es plus parce que toi, tu veux grossir, ben, en fait, au bout d'un moment, t'es le propre goulot d'étranglement de ta boîte. Et donc, ça, c'est quelque chose que je suis en train de réparer aujourd'hui ou de créer, en fait, de compenser en essayant de faire monter une marque qui serait l'équivalent des éclaireuses, pour Nina Ramen, tu vois, qui serait une marque qui serait au-dessus de moi. Donc, ça a un avantage qui est que c'est génial parce que c'est super fort. C'est un autre avantage qui est que ta marque personnelle, tu la vendras jamais. Mmh. Et on peut aussi imaginer que cette marque personnelle devienne une marque de boîte. Exemple Coco Chanel, exemple Louis Vuitton, qui sont, tu vois, il y a 30% des marques de luxe qui sont des marques éponymes. Donc tu vois, c'est pas parce que
ça part de quelqu'un,
que ça peut pas monter au-dessus. Mais il y a quand même des difficultés là-dessus et c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de résoudre. Moi, je suis en train de faire monter la marque de ma boîte et aujourd'hui, ben, en interne, j'ai aussi des personnes qui travaillent sous le nom de Nina Ramen et qui ont le produit. Tu vois, ma CEO, bah, c'est le produit, et puis je suis pas à 100% sur mon produit et c'est OK. Donc je me suis extraite de ça. Ensuite, sur la partie, ben, quand tu le fais dans l'autre sens, je pense que c'est... En fait, moi, mon objectif idéal, ce serait d'avoir ma marque personnelle, c'est-à-dire Nina Ramen, qu'elle continue à exister et qu'elle serve de levier à ma marque de boîte. C'est-à-dire que Nina Ramen, elle fait levier sur Ramen ta fraise, au même titre que demain, elle fait levier sur l'école des copywriters, elle fera levier sur... les culottes et les fraises, ouais. Qui seraient une marque de culottes, tu vois.
Sur tous les autres projets.
Sur tous les autres produits. Et en fait, je serais ma marque personnelle soit suffisamment forte pour qu'elle permette de faire levier sur, sur mes business. C'est un peu ça de la manière dont moi je l'imagine, mais qui finalement est pas hyper... Il n'y a pas de réponse. On peut prendre un exemple, autre exemple, Elon Musk. Elon Musk existe en tant que personne, mais tu connais très bien ses marques, tu vois, notamment Tesla, mais il n'y a pas que, tu vois, et tu connais très bien ses produits. Et lui, il fait le levier de sa marque personnelle vers ses boîtes et vers ses produits. C'est un peu comme ça que j'imagine les choses. Après, il y a une porosité qui est énorme. Et aujourd'hui, est-ce que Ramène ta fraise est vendable en l'état? Non. L'enjeu, c'est d'arriver à transférer le capital de marketing de Nina Ramène vers Ramène ta fraise.
Complètement. Je comprends totalement ça. Moi aussi, c'était une question à laquelle je me suis posée. Mais finalement, on a vendu il n'y a pas longtemps. Et c'était aussi un des objectifs que les éclaireurs soient une marque qui vive bien au-dessus de moi. Et finalement, notre communauté ne sait pas vraiment qui se cache derrière les éclaireuses. Je suis la voix et l'hôte de ce podcast, mais en réalité, on n'est pas du tout dans les contenus qu'on produit au quotidien, quoi.
Et ce serait quoi l'indicateur c'est quoi l'indicateur qui te permet de savoir si la marque dépend de toi ou pas ?
L'indicateur de savoir si la marque dépend de moi. En fait, elle n'est pas incarnée finalement, ma marque. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer une marque puissante avec une communauté fidèle et engagée, mais ça ne sera jamais une communauté qui aura l'impact qu'ont les influenceurs, par exemple, avec leur communauté. Parce que comme tu l'as très bien dit, les gens s'attachent à une personne, à une personnalité, à une histoire, à un parcours qui n'est pas mis en avant en fait, au sein des éclaireuses. Donc j'ai le problème inverse de toi, qui est ça ne monte pas aussi vite que t'es attaché à une personne et que c'est incarné, quoi.
Ouais, trop intéressant.
Voilà.
J'ai hacké ce podcast.
Complètement. Le temps file, mais j'ai quand même encore deux questions avant de passer au Dico Boss. Je sais, ça sera un épisode qui sera un peu plus long. J'aimerais bien que tu te transformes en petite Madame Irma rapidement pour deux questions. La première, c'est comment tu vois l'avenir de LinkedIn ? Alors moi, c'est un réseau social que j'adore, mais c'est vrai que depuis quelques mois, on assiste quand même à l'émergence d'avoir de plus en plus de créateurs de contenu sur la plateforme, sur lequel c'est plutôt cool parce que t'as quand même qui apporte quand même une valeur ajoutée assez importante. Mais il y a aussi de plus en plus de contenu qui, je trouve, mais pour moi, excuse-moi le terme, fait un peu putaclic. Tu parlais de l'accroche, mais là, en ce moment, les accroches sur LinkedIn, c'est à celle qui va avoir la plus grosse accroche, qui va générer le plus de vues et de clics. Je me suis fait 500 000 euros en 2 mois, enfin, tu vois, ce genre d'accroche-là. Comment tu vois évoluer cette plateforme ? Est-ce que tu la vois évoluer dans le bon ou dans le mauvais ?
Moi, je pense qu'elle évolue à la hauteur des gens qui sont dessus. Et donc, tu vois, les gens disent qu'ils veulent regarder du cinéma d'auteur et finalement, ils regardent TPMP. Donc, c'est toujours le sujet de qu'est-ce qui marche pour ton marché. Et tu vois, il y a cette idée de si les gens, et si ce genre d'accroche fonctionne, c'est qu'en fait, à un moment, il y a des gens pour cliquer dessus. Mmh. Donc, il y a cette idée de comment toi, tu te remets en question sur le contenu que tu consommes, tu vois. Et cet écart entre ce que les gens auraient envie de voir et ce qu'ils consomment réellement, tu vois. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, je pense que, de toute façon, une plateforme, elle est au service des personnes qui la consomment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est probablement que LinkedIn, elle a eu plus d'utilisateurs ces derniers temps, que l'acquisition sur LinkedIn, elle est de plus en plus importante, beaucoup plus mainstream qu'elle n'était avant. Et donc, t'as l'arrivée de ce contenu-là qui plaît à certaines personnes, pas d'autres. Bon, voilà, moi, j'ai pas de... Tu vois, moi, je me pose pas trop, tu vois, cette question. Mais par contre, ce que je me dis, c'est que, comme tu le dis, la plateforme, elle devient de plus en plus riche. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Et au même titre que sur Instagram, tu vas pas aller follow tout le monde. L'enjeu, c'est aussi d'aller... Feed, voilà, il faut se créer son propre feed. Il faut vraiment... faut vraiment être très sélectif là-dessus, parce que ce que tu mets dans ta tête, c'est ce qui va sortir au bout d'un moment, quoi. Donc, faut être sélectif là-dessus. Et dernière chose aussi, c'est, moi, je crée toujours du contenu. En fait, ce que j'enseigne, c'est rarement par rapport à un outil. Y a des réalités, notamment le copywriting, c'est une discipline qui existe depuis les années 50. Quand on voit le film Mad Men, il parle de copywriting, la série Mad Men, pardon, il parle de copywriting. Mad Men, c'est les publicitaires en fait, des années 50-60. Et leur objectif, c'est de faire des publicités et notamment des écritures sur les publicités. Et Peggy Olsen, c'est une copywriter. Donc c'est une discipline qui est très ancienne et qui existait bien avant LinkedIn et qui continuera d'exister bien après LinkedIn. Et c'est pour ça que moi, ce que je choisis de faire et choisis d'enseigner, c'est l'écriture de vente, parce que je sais qu'elle survivra à LinkedIn. Et en réalité, bah, LinkedIn, au même titre que certaines plateformes aujourd'hui vont disparaître, bah, je sais que la connaissance et la compétence d'écriture, bah, elle survivra aux plateformes. Même, tu vois, je pense à TikTok, qui sont des courtes vidéos. Mm. Bah, TikTok, il y en a... Quand tu fais un script TikTok, c'est du copywriting. Moi, je connais pas mal de créatrices de contenu qui scriptent leur TikTok et qui travaillent énormément leur accroche, tu vois.
Non, mais déjà, en fait, quand tu parlais de la méthode AIDA, c'est une méthode que tu peux très bien utiliser dans la création de vidéos. C'est en ça. Fait, dans une vidéo, les 3 premières secondes, c'est celles qui vont te permettre de capter ton audience. Donc,
Exactement. Donc, tu vois, finalement, l'avenir de LinkedIn... Je sais pas, mais ça me fait pas trop peur en fait. Ça m'inquiète pas parce que je sais que à partir du moment où t'as un savoir qui est suffisamment robuste, bah tu sais que aujourd'hui c'est LinkedIn, mais peut-être que demain ce sera autre chose en fait.
Et continuons dans ta petite boule de cristal. Comment tu vois l'avenir de ton métier avec ChatGPT? C'est certainement une question qu'on doit énormément te poser en ce moment. Mais parce qu'en fait, tu parlais du fait que voilà, les gens face au copywriting faisaient face à 3 problèmes. Le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la page blanche et le syndrome de « j'ai pas le temps ». Mmh. Et finalement, ChatGPT répond quand même à ces 3 problématiques. Tu sais pas quoi écrire, il va quand même t'aider là-dessus. Mmh. T'as pas le temps, bah, franchement, en 3 secondes et demie, t'as un texte qui est plutôt pas mal fait. Est-ce que tu vois justement le fait que c'est un métier qui est voué à disparaître ou au contraire c'est un outil qui va te permettre aussi d'être plus performante, d'être plus productive et aussi de développer d'autres compétences parce qu'il faut savoir lui parler, il faut savoir l'entraîner et il faut savoir faire des prompts, tu vois, qui sont assez puissants pour le rendre puissant.
Tout à fait. Le Thermomix n'a jamais remplacé les chefs. ChatGPT, c'est le Thermomix. Donc c'est trop bien. Moi, je suis très contente parce que.
Et d'ailleurs, en fait, j'ai vu sur ton site que tu vendais une formation pour ChatGPT. Et ça, je me suis dit, mais c'est tellement smart en fait de dire, bah c'est pas du tout en fait un adversaire. Au contraire, c'est un atout. Oui, exactement.
Mais c'est trop bien. En fait, c'est je te dis, c'est ton robot. Mm. C'est ton robot. C'est ton robot fait tout. Il te donnera jamais la recette. Il te fera jamais des plats. Il va jamais inventer des plats exceptionnels. C'est à toi de détenir la compétence, d'être le chef. Et lui, il va t'aider à les exécuter. Alors. Petit topo sur ChatGPT. Première chose, ChatGPT, en fait, il fonctionne un peu comme l'écriture intuitive du téléphone. Un peu quand vous écrivez sur le téléphone et vous appuyez toujours sur la touche du milieu, là, ça fait des phrases un peu bizarres. Et c'est basé sur le fait que, en fait, il prend la moyenne de ce que vous avez fait dans le passé et puis il essaie de reconstituer des phrases en fonction de ça. Bon, bah, ChatGPT, il prend la moyenne de ce qui a été fait sur Internet et il va le restituer. Mais par définition, ce ne sera toujours que moyen. Mmh. Et ça ne va jamais sortir du commun, ça ne va jamais être différent, ça ne va jamais être vraiment la petite touche, en fait, ce qui fait qu'une recette, elle est différente. Elle est... Oui, tu pourras faire des lasagnes bolognaises classiques, tu vois, comme à la cantine, mais tu peux aussi faire le truc retravaillé, revisité, avec un truc décomposé, etc. Et tu pourras toujours, en fait, faire un meilleur plat. Donc, ChatGPT, il fait vraiment les lasagnes de la cantine, et à toi, en fait, derrière, d'arriver à trouver, à faire quelque chose de mieux, de qui ne soit pas moyen. C'est la première chose. Deuxième chose, ChatGPT, là où il est bon, alors il y a un danger de ChatGPT, c'est qu'il peut inventer des choses.
Complètement, il faut toujours vérifier les sources.
Il ne faut pas utiliser ChatGPT sur un domaine qui n'est pas ton expertise. Mais il peut dire des dingueries. Il peut dire genre le requin est un mammifère. Vraiment, c'est un truc de malade. Donc vraiment, c'est dangereux. Il y a des gens qui se sont dit « Ah vas-y, je vais faire ça, je vais l'envoyer. » Ils se sont fait cramer.
Bah, j'ai vu un spécialiste de l'IA et qui disait que, en fait, comme tu l'as très bien dit, ChatGPT se nourrit de tout ce qu'il y a sur Internet. Mais sur Internet, il y a aussi beaucoup de fake news. Donc en fait, il ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc surtout, même si vous n'êtes pas expert dans un domaine, mais que vous allez tenter de le devenir avec ChatGPT, allez quand même vérifier tout ce qu'il vous dit parce que ce n'est pas le savant incroyable ouais. Qu'on imagine.
ChatGPT n'est pas Google. Mmh. En fait, Google est meilleur pour trouver des informations. Bon, ça, c'est ce qu'il ne sait pas faire et ce qu'il fait mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait bien? Ce qu'il fait bien, c'est brainstormer. Tu peux lui demander... imagine que tu es une copywriter, que tu as une cible d'audience, une audience d'entrepreneuse, féministe, engagée. Donne-moi... 3 types de contenus que tu pourrais faire. Et donc là, il va te donner ces 3 types de contenus. Tu peux entraîner Bon, là, je t'ai donné un prompt facile. Ouais, ouais. Hein. Mais en fait, tu peux créer des prompts de plus en plus complexes. Et moi, c'est ce que j'enseigne dans ma formation. C'est vraiment la création de prompts. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie du prompt. C'est comment tu vas créer. En fait, ChatGPT, en fonction de ce que tu lui mets dedans, il va te sortir un rendu qui est totalement différent. Tu vois, Siri ou Alexia, tu lui dis « donne-moi l'heure », elle te dira la même chose que si tu lui dis « donne-moi l'heure, s'il te plaît », que l'heure.
Quelle heure est-il,
ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Alors que ChatGPT, pas du tout. Donc vraiment, ce que tu mets, l'input, va vraiment déterminer l'output. Ça, c'est la première chose qu'il sait faire, brainstormer, et à condition qu'on lui donne le bon prompt. Ce qu'il sait très bien faire, c'est quand tu n'as pas ton persona en face de toi. Tu te rappelles, tout à l'heure, je te disais, il faut avoir son persona, c'est bien d'avoir une petite communauté. Si toi, tu pars de zéro, tu ne connais pas ton persona à qui tu t'adresses, tu ne connais pas ses douleurs, etc., tu peux utiliser ChatGPT. Et notamment, moi, je l'avais fait sur un responsable RSE dans les grands groupes. Alors que très clairement, je n'ai jamais rencontré de responsable RSE dans les grands groupes. Voilà, pas ma réalité de quotidien. Je lui ai demandé, imagine que tu es un responsable RSE, quels seraient tes enjeux? Et donc, il m'a dit, l'enjeu, c'est d'embarquer tous les gens du groupe, c'est de convaincre la direction, c'est d'avoir le budget. Et donc, il m'a donné plein d'enjeux comme ça. Et ça nous a permis, c'était pour une cliente, de créer des contenus qui soient en lien avec la personne qu'elle vise. Et dernière chose, j'ai toujours dernière chose, hein, c'est un tu peux lui demander de classer des données. Si tu as beaucoup de textes et de verbatim, tu peux les mettre dans ChatGPT et lui dire, imagine que tu es un spécialiste des analyses de données, classe-moi tout ce contenu en fonction de, et là il va te le classer, c'est trop bien. Et tu peux lui donner aussi des structures d'articles, donc à condition d'avoir la structure.
Complètement.
À condition d'avoir la recette,
lui, il
peut les
écouter. Moi, je l'ai entraîné avec mon ton, en fait. Donc, je l'ai déjà nourri de tous les articles que j'ai écrits avec les éclaireuses. Et donc, du coup, maintenant, il arrive pratiquement à écrire comme moi. Et c'est incroyable, quoi.
À condition de lui avoir... et donc, ce qui est pas mal, c'est quand tu utilises toujours la même structure d'article. Par exemple, la structure QPCE. Pourquoi, quoi, comment, ici. C'est vraiment une structure que moi, je réutilise souvent. Et si tu la détailles suffisamment, il peut te l'exécuter. Donc, il faut lui donner la recette. Et moi, je t'invite plutôt à créer la recette et à lui demander de l'exécuter.
Ah, bravo, merci pour tous ces tips. Alors, écoute, le podcast touche à sa fin et... on a un petit passage qui s'appelle le Dicobos et l'idée c'est que je te donne un peu du tac au tac des petits des mots et tu me donnes ta propre définition de ce mot.
Okay.
Est-ce que tu es prête?
Oui.
Alors déjà on est sur c'est qui la boss, donc c'est quoi pour toi la définition d'une boss? Qu'est-ce qui fait qu'une femme est une boss à ton sens?
Très bonne question. Je pense que c'est cette idée de se sentir légitime, peu importe ce que tu fais.
C'est une femme qui a confiance en elle.
Ouais, sentir légitime, avoir confiance en elle, suffisamment pour faire des choses et passer à l'action. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de
qui ose être la femme.
Oser, ouais, oser faire. Et pour ça, en fait, tout ça, pour moi, ce n'est qu'une conséquence de se sentir suffisamment légitime, se sentir suffisamment en confiance. Si ça, tu gères ce truc en toi, en fait, derrière, tu arriveras à faire des choses. Et tu seras une boss parce que tu arriveras à développer ta boîte, tu arriveras à faire du chiffre d'affaires et tout. Mais si ce truc-là, tu ne l'as pas résolu, tu seras toujours en insécurité. Et du coup, ça va te freiner et tu ne vas jamais oser, tu ne vas jamais faire. Donc pour moi, vraiment, c'est qui la boss? Pour moi, c'est l'affirmation de soi. C'est vraiment cette idée d'avoir confiance en soi, de se sentir légitime partout où tu vas.
Magnifique.
Même quand tu es la seule femme dans la pièce, même quand tu es la seule femme de la pièce, même quand tu es la seule femme qui parle d'argent, même quand tu es la seule femme qui
a écrit un livre sur le copywriting.
Qui a écrit un livre sur le copywriting, voilà, même là-dedans, tu te sens légitime.
Ta définition de l'ambition, on en parlait tout à l'heure avant le podcast, le fait que voilà, une femme ambitieuse, c'est souvent mal vu. Pour toi, ça représente quoi l'ambition?
Pour moi, c'est faire des choses, même quand tu n'es pas sûre qu'elles réussissent. C'est se dire que tu vas tester, que tu vas apprécier le chemin et que tu verras où tu iras dans la destination. Mais il y a vraiment cette idée de l'ambition. C'est facile d'être ambitieuse quand tu sais que tu vas réussir, en fait. C'est juste, je vais réussir, je suis ambitieuse, c'est 100% de réussite. Ok, c'est pas de l'ambition. L'ambition, c'est de se dire, ok, il y a 50% de chances que je me foire, mais j'y vais quand même.
C'est sortir de sa zone de confort aussi, accepter les challenges.
Ouais, c'est sortir, évidemment, ouais, c'est sortir de sa zone de confort. C'est cette idée de se dire que même si je ne me sens pas toujours de le faire ou que je n'ai jamais fait, moi, j'avais jamais écrit une newsletter, j'avais jamais... Il y a plein de choses que je n'avais jamais fait. J'avais jamais fait une formation à ChatGPT avant de faire une formation sur ChatGPT, tu vois. Donc vraiment, il y a cette idée de se dire que tu vas toujours essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et il y a quelque chose que je dis souvent et que je dis souvent à mes équipes, c'est Excelsior. C'est toujours, cette idée d'être toujours meilleur. Si tous les jours, t'es 1% meilleur, à la fin de l'année, t'es 37 fois meilleur. Donc chaque jour, essaie d'être 1% meilleur. C'est pas dur d'être 1% meilleur, mais à la fin de l'année, ça fait que t'es 37 fois meilleur.
C'est beau. Et d'être meilleur que celle qu'on était hier.
Voilà, c'est ça. Et de pas se comparer aux autres, mais se comparer plutôt à la elle de la veille. Mmh. On a toujours tendance à se dire, ah oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle a de mieux, ou elle réussit mieux, ou elle a plus de ci, plus de ça. Mais là, en réalité, déjà, tu sais pas comment ça se passe à l'intérieur d'elle. En fait, ça se trouve, elle a plus de doutes, autant de doutes que toi, et 100% de chance pour que ce soit vrai. Et ensuite, ben, elle parle pas du même niveau que toi. Donc, la meilleure personne pour te comparer, c'est toi, hier.
Et ta définition de l'échec, on sait que la vie d'une boss est aussi ponctuée de haut et de bas. Est-ce que tu as rencontré des échecs et comment tu les as surmontés aussi?
J'ai eu des échecs, notamment des... Bah là, tu vois, je suis en train de... Bah, c'est en ce moment. Donc là, ce que je raconte, c'est... J'ai pas vraiment beaucoup de recul, mais je vais le dire quand même.
Genre... Non, mais c'est bien parce qu'en fait, quand, tu sais, j'ai lancé le festival, il y avait toute une table ronde sur l'échec. Et j'ai eu beaucoup de mal de trouver des femmes qui étaient en train de vivre l'échec à l'instant présent et qui acceptaient d'en parler. J'en ai contacté parce que j'en connais dans le milieu, tu vois, qui ont un peu crashé leur boîte parce que c'est un moment qui est difficile un peu pour tout le monde en ce moment en termes de revenus. Mais toutes celles qui ont accepté, c'est celles qui ont surmonté l'échec, qui ont accepté en fait d'en parler. Mais celles qui étaient en plein dedans, elles m'ont dit, écoute Mélodie, c'est trop chaud pour que je vienne en parler maintenant. Quoi. Ouais, je pourrais t'en parler après avec du recul.
Ouais, vulnérabilité ouais. En fait, c'est ça, c'est de se mettre en vulnérabilité. Et quand tu l'as surmonté, tu dis, ah c'est bon, c'est passé. Mais là, je un truc qui est en train de se passer. En fait, j'ai lancé donc le bootcamp, donc qui est mon produit principal aujourd'hui, et j'aimerais lancer un deuxième produit. Et le deuxième produit que je voulais lancer, c'était un club. Tu vois, en fait, je voulais un produit qui soit le bootcamp, ça crée du chiffre d'affaires ponctuel, ça fait des gros pics, mais ça crée pas de récurrent. Et donc, stratégiquement, je me suis dit, ok, j'aimerais créer un produit qui soit récurrent, qui m'apporte moins d'un coup, tu vois, mais qui m'apporte tous les mois. Et donc j'ai voulu créer ce que j'appelais le club et l'idée c'était toutes les semaines de faire une visio avec les participantes, donc elles sont une quinzaine et le principe c'est du co-développement, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va arriver avec une problématique et les autres vont venir l'aider sur cette problématique. Et donc là j'ai lancé la troisième session et alors, à chaque session, il y a au moins une personne qui vient me dire « ça ne me correspond pas, ce n'est pas mon produit ». J'ai plein de feedback, notamment certaines qui me disent que les niveaux sont trop différents, d'autres qui me disent « ce n'est pas ce à quoi je m'attendais ». Et en réalité, je me rends compte que ce produit, je l'ai lancé peut-être trop vite, sur une cible qui n'était pas très précise. Je n'avais pas une proposition de valeur suffisamment claire. Et donc là, je me rends compte que ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir des clientes qui se disent « ah ouais, ça ne me convient pas trop ». Alors moi, de toute façon, chez moi, j'ai une politique, c'est « si tu n'es pas content, on te rembourse. »
Satisfait ou remboursé.
Ouais, vraiment. Mmh. Donc tu vois, je les rembourse et puis ciao, tu vois, il n'y a pas de... Enfin, puis je les adore, on est super proches et tout, mais tu vois, ça me fait quand même mal, alors que jusqu'à maintenant, j'ai 110% de satisfaction sur mes produits, j'ai toujours l'over-deliver.
Ça fait du mal de décevoir, quoi.
Toujours l'over-deliver, je fais toujours en sorte qu'elles soient contentes, mais plus que contentes, tu vois, elles ont toujours le truc en plus qui font qu'elles sortent de là, elles sont trop contentes, tu vois, à la fin du bootcamp, elles partent avec un playbook, elles prennent chez elles, enfin, elles ont toujours le truc en plus, et là, j'ai quand même trois personnes qui m'ont dit « ah ouais, mais je suis pas sûre que ce soit moi ou que ce soit pour moi ». Donc c'est jamais contre moi, etc. Elles sont jamais déçues, elles voient qu'il y a du travail, etc. Mais je pense que j'ai mal ciblé mon produit, que j'ai voulu faire un peu de tout et finalement j'ai fait rien. Et donc mon plan d'action pour répondre à ça, c'est que je travaille avec mon associé là-dessus, Elise qui est en train de passer associée. Elle va envoyer un questionnaire en disant qu'est-ce qu'on peut améliorer, même si j'ai déjà pas mal d'idées. Se confronter à celles qui sont pas contentes, même si ça fait mal et que tu as juste envie de mettre ça sous un tapis et de dire qu'on prend trop d'argent et va-t'en. Mais se confronter, pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et là, je me dis, est-ce qu'on va au bout? On avait prévu un test d'un mois et demi. Est-ce qu'on va au bout ou est-ce qu'on clôture maintenant et on relance quelque chose de plus carré en septembre? C'est un peu la question que je me pose et c'est celle à laquelle je n'ai pas encore de réponse.
Mais c'est un super tips quand même de te dire qu'il faut se confronter à son échec, quoi.
Ah oui, complètement.
Si tu n'en tires pas des enseignements, finalement, c'est là où ça devient un vrai échec.
Ouais, c'est ça. Et c'est dur parce que tu dois le regarder dans les yeux et tu dois vraiment parler à des gens où tu te dis « Non, mais moi, j'aimerais trop que tu sois contente. » Enfin, tu vois, moi, j'ai beaucoup de reconnaissance envers mes clients parce que c'est elles qui me font vivre. Et puis, tu vois, je sais que c'est des entrepreneuses, donc c'est leur denier, quoi. Et parfois, c'est des gros investissements. Alors là, pour le coup, ça ne l'était pas. Tu vois, c'était 150 euros. Donc, voilà, je sais que c'est largement dans leurs moyens. C'est des clientes qui ont déjà dépensé sur le bootcamp, donc qui ont produit beaucoup plus cher. Donc, je savais que c'était pas un enjeu. Et d'ailleurs, c'était aussi le deal. C'est un produit pas cher, mais on le construit avec vous. Et pour le coup, je ne l'ai pas rendu public. C'était que à mes clientes déjà existantes. Donc, tu vois, la casse, elle est pas énorme. Hein. Mais voilà. Mais il y a quand même ce truc de me dire... Ah, ça me fait mal. Et donc, se confronter, se dire qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et essayer de ne pas le prendre personnellement. Ta cliente, elle te dit juste, bon, bah voilà. Et d'ailleurs, elles sont même désolées quand elles te le disent. Elles te disent, non, mais tu vois, c'est pas toi, mais bon. Voilà. Et dernière chose aussi, c'est pas toujours facile d'avoir du feedback honnête. Je pense que s'il y en a une qui te dit ça, c'est-à-dire qu'il y en a trois autres qui le pensent, voire cinq autres qui le pensent. Donc ça, c'est une bonne analyse aussi à avoir en tête. Et moi, c'est toujours ce que je me dis. Donc du coup, l'effet, il est un peu décuplé dans ma tête. Donc c'est un peu c'est plus bien. Violent pour moi. Mais je me dis, s'il y en a une qui le dit, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus qui le pensent.
Ok. Et à l'inverse, ta définition du succès, à quel moment tu te dis, bah franchement, j'ai réussi? Parce qu'il faut se le dire à un moment donné aussi.
Ouais.
Même si c'est ponctuel, éphémère.
C'est super dur, en fait, de ne pas avoir l'étape d'après. Moi, dès que j'ai un milestone, ça y est, c'est bon, là, je sais faire un livre, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire après? En ce moment, ma réussite, ça a été la 100e apprenante sur le bootcamp, donc je suis trop contente. D'ici la fin de l'année, ce serait avoir un produit, un deuxième produit, plus que celui-là. Soit ce sera un produit complémentaire, qui serait un bootcamp mais sur une autre verticale, soit ce serait un produit type club, mais en fait apparemment en fait c'était peut-être pas le bon produit, donc du coup là on est en train de se poser la question. Ça c'est un peu mon objectif. En fait j'ai du mal à avoir, enfin j'ai des objectifs court terme et j'ai des objectifs très long terme. Donc là les court termes je te les ai donnés, c'est arriver à moi, ben récupérer du temps, à ce que le marketing et la vente dépendent moins de moi. Donc ça vraiment ce serait une vraie réussite pour moi, c'est d'incarner la position de CEO. Et de plus être Nina, freelance, solo, me voir plus petite que je suis, etc. Enfin, tu vois, vraiment incarner ce truc-là avec tout ce que ça implique derrière de posture, etc. Donc ça, c'est un vrai défi pour moi en ce moment. Comment ça se matérialiserait? Ça se matérialiserait en... Bah, Nina, en fait, son job, c'est de prendre des décisions et d'aller faire des podcasts, des trucs comme ça, en fait, que ce soit que ça, finalement, mon quotidien. Et de manager, effectivement. Ça, c'est une première réussite sur laquelle je suis sur le chemin. C'est personnel. Et dans 25 ans, j'aimerais que Ramène ta fraise, ce soit un espace d'empouvoirment par la formation des femmes. Donc, ça veut dire que ce sera un endroit où tu peux venir apprendre, parce que l'apprentissage, c'est intimement lié à la confiance en soi. Je pense que quand on a confiance dans ce qu'on sait, on expérimente. Quand on expérimente, on devient meilleur. Quand on devient meilleur, eh ben, on se sent légitime, donc on fait des choses. C'est un peu le chemin que je vois. Et donc, j'aimerais que Ramène ta fraise soit un endroit où les femmes puissent, par l'apprentissage, prendre le pouvoir sur elles-mêmes et sur la société, évidemment. Et donc, potentiellement, peut-être qu'il y aurait d'autres verticales. Et ce que j'aimerais encore plus, ce serait qu'il y ait un endroit où on puisse gérer tes enfants. C'est-à-dire que tu puisses venir pendant 2 heures laisser tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'un des plus gros freins à l'apprentissage, c'est facile de dire oui, les femmes, osez plus. OK, mais en réalité, les femmes, elles osent. Et la réalité, je pense que ce qu'il faut leur enlever, c'est d'abord les freins qu'elles ont à la maison. Et donc, j'aimerais arriver à mettre cette brique-là. Et ça, si dans 20 ans j'en suis là, franchement, je serais trop contente.
Eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, merci beaucoup, Nina, pour ton temps qui est précieux. C'est un épisode qui a duré le double du temps, mais qui était tellement intéressant, donc je ne voulais absolument pas arrêter la conversation.
Je t'ai dit, je suis prof, moi, donc il faut m'arrêter ou me dire couper. Merci beaucoup de m'avoir reçue, Mélodie, c'était top.